Maman, je viens de me faire carjacker. Je dis, je viens de me faire carjacker. On a volé l'auto. Non, je n'ai rien su faire. J'ai tâché de courir derrière. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je suis écœuré. Je veux quitter cette ville. Je deviens fou, moi, ici. La violence.
Bonsoir, oh là là, oh, c'est léger en fait. Bonjour, bonsoir, Radio Stoub, nouvelle année, nouvelle équipe, nouveau président, nouveau joueur, tout est nouveau dans nouveau Radio Stoub, nouveau gardien, tout est nouveau dans Radio Stoub, sauf le picon. Bonjour, bonsoir, je commence par présenter l'équipe. Non, je commence par la question Minitel. Question Minitel, j'avais décidé. Disruptif. Il Vecchio, tu veux les capsules. Première question, le mercato est-il terminé pour les radios stoupistes? Au cas où.
On a fait des tentatives de recrutement, on a fait des tentatives de sourcing, hein, on a mis Michael Page, tous les grands cabinets sur le coup. Malheureusement.
Chahir ouais. Belghazouani.
On a écumé, tous les bars interlopes pour essayer de trouver des contradicteurs,
Il n'y a pas eu de stubiste d'ouverture.
On a cherché Rachida Dati. Jean-Marie Bockel était dispo, mais c'était trop cher.
Voilà. François Bayrou a décliné.
Oui, tout à fait. Ouais. Il a dit.
Mais il te salue quand même.
Oui. Ouais. Vous allez, voilà.
Mais c'est pas gratuit non plus.
Donc, c'est une équipe resserrée, prête à affronter la deuxième partie du championnat. Stroutim.
Bonsoir, bienvenue. Matt Sels à tous.
Hathor est là aussi.
Bonjour, bonsoir.
Bienvenue aussi, Matt Sels à toi. Et Kittel.
Bonjour à tous.
Et Gigas, bien sûr, on n'a plus d'argent pour
faire des introductions avec des musiques.
Paul Stanley de Radio Studio.
Ça nous a coûté cher quand même ce procès en droit d'auteur.
Ouais. Mais par contre, on rappelle qu'effectivement, Radio Studio est ouvert à toutes les personnes qui ramènent du saucisson et de la bière.
Oui.
Et qui connaissent le mot de passe secret pour rentrer à travers la porte cochère. Enfin, voilà, un truc classique.
Derrière cette porte sombre.
On va Radio Stoub un petit peu spécial, un petit peu nouveau, à l'image de ce nouveau Racing. On a décidé de ne pas faire le match par match. Voilà, on annonce tout de suite, hop, on évacue.
Le monde change.
Il
faut s'adapter et changer la formule. Qui ne marche plus.
Voilà. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Voilà. Donc, on va commencer par la forme, hein, la forme du moment de ce Racing, parce que Radio Stoub n'est pas aveugle, n'est pas sourd, peut-être légèrement beurré, mais... subtilement beurré, mais nous sommes prêts à reconnaître, dans un élan de fraternité, que ce Racing 2024 fin 2023, joue mieux au football.
2024.
Ouais.
Dernier Radio Stoub fin décembre.
Ouais. Bon, ça jouait déjà un petit peu mieux avant.
Oui. Un peu mieux, ouais. Plus de pressing.
Je vais goûter la boomer. Pas.
Plus de...
Ça donne soif, là,
De raconter toutes ces conneries, ouais. Voilà. Plus de liant. Effectivement, il y a une métamorphose qui est relativement inattendue, faut quand même bien le dire. Mmh. Quand on est parti des matchs comme Lens-Nantes... qui était franchement pathétique en termes d'intensité, en termes de tir, qu'on termine sur des matchs comme Paris ou Le Havre, en coupe où on presse, on tire beaucoup, il faut bien reconnaître que, honnêtement, je pense que personne ici l'avait spécialement vu venir.
Moi si, évidemment, mais je ne pouvais pas dire, non, c'est clair.
Il y a une mayonnaise qui a indéniablement pris. Ça n'enlève rien à toutes les réticences qu'on peut avoir par ailleurs.
Ça, c'est après. On en parlera après, mais il y a des grosses satisfactions quand même là maintenant.
Ouais. Déjà, juste pour la constante aussi, enfin la constante. Le point commun de tous ces matchs, en fait, c'est la stabilité du plan de jeu de Patrick Vieira. C'est vrai qu'en début de saison, il tâtonnait un peu avec cette espèce de 3-5-2, un peu amorphe où il n'y a pas de pressing. Et il a
tâtonné. Il y avait aussi un 4-4-2 avec Senna.
Il y avait un 4-4-2 aussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'il a tâtonné jusqu'au match amical contre Karlsruhe.
Où on là, prend, c'est pas tâtonné.
Vraiment, on a tout,
c'est fusillé.
Là, on a touché le fond. Et derrière, il a commencé à changer un peu son fusil d'épaule. Il est revenu à 4-3-3 un peu plus simple. Et il a remis du pressing. Effectivement, je pense que c'est vraiment la différence. En début de saison, il a assumé de pas du tout presser, de laisser un peu venir et de profiter des transitions sans presser. Et là, depuis qu'il a en plus pu installer un milieu de terrain bien complémentaire et porté par un Ibrahima Sissoko par moment qui est stratosphérique.
Est-ce qu'on peut faire une aparté sur Ibrahima Sissoko? Est-ce qu'il n'y a pas ma théorie Sissoko depuis le début de Ibrahima Sissoko?
Ah.
Qui se, en alternance.
Patrick Sissoko et voilà. Le jumeau maléfique.
Le jumeau maléfique
et genre. Il a trouvé Sissoko.
Voilà. Non, mais genre, ce mec, il est improbable. Il est capable de faire des mois pathétiques et après d'exploser, d'être le seul joueur qui tient la baraque. Et puis, c'est montagne russe.
Ouais.
C'est la montagne malienne.
C'est un peu, c'est vrai que c'est assez étonnant.
La poutre de Bamako.
Premier dérapage, c'est bon.
Un point Michel Leb pour toi.
Non, c'est vrai que c'est assez déroutant. En fait, j'ai l'impression que chez un mec comme Sissoko, tout va jouer sur la première touche de balle. Et en fait, quand il
soit est... Soit il marche sur le ballon.
C'est ça, soit il marche dans le ballon, soit il a un contre favorable qui fait que derrière, il va imposer son physique. Il a quand même cette capacité à vraiment mettre du beefsteak sans trop avoir l'air, mais en même temps, je pense que ça fait mal hein, quand tu te prends un Sissoko dans le buffet.
On va pas prendre un Sissoko dans le buffet.
Ouais, mais
il fait 1m90, hein,
enfin, ouais, il fait pas 90 kilos. Hein.
Et donc, à partir du moment où il est dans un. Tu vois, il y a un genre de tipping point, c'est-à-dire que s'il réussit son premier contrôle et sa prise de balle, derrière, sa vélocité, l'impact qu'il peut mettre au milieu de terrain vont faire que les mecs en face vont avoir un peu peur.
Et on donc, a le poids de Sissoko.
Ouais, juste parenthèse, t'as dit qu'il faisait pas 90 kilos, s'il fait 90 kilos.
Ouais, selon le Shtoub.
Ouais.
Non, selon. Avant ou après le McDo?
Il y a du beefsteak, hein.
Ouais, il y a de la masse.
Non, mais, donc on revient, effectivement, non, mais, il est pas, anodin que le regain de forme de Sissoko, encore une fois, comme c'est déjà arrivé plusieurs années, impacte le Racing, puisque le milieu de terrain est toujours le parent pauvre.
Ouais. Mais justement, je en soulignais Sissoko, mais il faut aussi rendre justice aux deux autres, hein, puisque dans 4-3-3, il y a trois milieux.
Attends, mais Sissoko, c'est le plus ancien joueur de l'effectif.
Ouais. Oui, c'est ça.
Parce que Motiba est arrivé un peu en fin d'été, mais Sissoko était là en 2000.
Oui, il est arrivé tout de suite.
2018,
ouais,
2018, au début.
Tout
début.
Mais rassure-toi, il est en fin de contrat.
Ouais, voilà, donc, il va pas rester longtemps, même si le débat commence à monter. Faut-il le prolonger? Doit-on? A-t-on le choix, etc.? Veut-il?
Oui.
Il y a plusieurs inconnus et voilà, je pense que il n'a pas forcément envie de rester ou il aura peut-être des exigences ou une volonté quoi de.
Ça on peut en parler après, je pense.
Ouais, mais bon, il faut quand même se projeter parce que là, sans lui, on serait peut-être pas allé au. À ce niveau de rayonnement, quoi.
On n'a pas d'autres milieux non plus. Hein. Enfin,
et c'est un vrai milieu justement par opposition aux autres qui se défendent. Mais là,
en mettant
un vrai milieu, on a quand même plus de.
Non mais vrai milieu. Les deux autres, Mwanga et Diarra, sont des vrais milieux. Mwanga, on pensait quand il est arrivé que c'était un défenseur central. Là, c'est bon, il est milieu pour les 15 ans qui viennent dans sa carrière. Enfin, il est rayonnant. Et Diarra, depuis le 4-3-3. Il y a une période au début du 4-3-3 où il joue encore sur le côté, mais là depuis la fin décembre, il joue au cœur du jeu dans l'axe et il revient à son niveau quoi.
C'est un joueur qui a besoin de partir de loin. C'est dans toutes les actions que je vois d'un Diarra tranchant, en fait, le positionner trop haut, ça lui rend pas service parce que ce qui va vraiment bien réussir, c'est ces grandes chevauchées balle au pied là où il est difficilement arrêtable. Et effectivement, on a trouvé une complémentarité. Alors, ça correspond aussi au moment où on sort d'Okouré du milieu. Il aspirait beaucoup de ballons, mais il avait tendance à faire des gris-gris et des gestes inutiles, ce qui n'enlève rien à ses qualités par ailleurs.
Qualité de défenseur central.
Oui, sans doute, ouais, effectivement.
D'Okouré, qu'on rappelle, qui est blessé.
Oui.
Qui est blessé, ouais. Il y a cette alchimie qui est trouvée, et je suis d'accord, le fait de remettre du pressing. Fait que ça donne finalement une identité à cette équipe qu'elle n'avait pas. C'est-à-dire qu'avant, on avait vraiment l'impression d'une constellation de potentiel physique un peu mal dégrossi. Et du coup, on utilise quand même cette domination physique qu'on a sur d'autres équipes. C'est-à-dire que la chance d'avoir un effectif plutôt jeune, paraît-il, ça se ressent quand même dans l'intensité qu'on est capable de
sur mettre. Sur toute la durée du match.
Sur toute la durée du match, ouais. Et peut-être aussi qu'il y a une préparation physique qui a été un peu intense, vu qu'on a 14 préparateurs physiques qui ont eux-mêmes 13 analyses vidéo, dont 12 qui analysent juste les tags RFID des joueurs sur le terrain, et puis un 14e pour le GPS, quoi. Donc encore heureux que ça sert à quelque chose.
On va dire ça, c'est une réussite quand même. Depuis le début de saison, c'est un truc staff, qu'on critique pas. C'est effectivement la préparation physique, le staff. On a changé un peu de dimension, ça c'est sûr.
Mais les qualités physiques, c'est aussi la qualité même du joueur. Enfin, on a beaucoup recruté des joueurs sur leur physique parce que ça devient forcément des produits d'export vers l'Angleterre. Enfin, il y a un moins gars qu'on a recruté, même un Bakois qu'on parlera un peu plus après, c'est des joueurs typiquement, physiquement, ils sont prêts tout de suite pour aller en Angleterre.
Ouais, bah c'est un peu ce que
NBA ready.
Knack 90 avait expliqué, c'est qu'on achetait du produit standard, oui, un peu mal dégrossi sur certains points, et un joueur comme Bakois est assez symbolique de ça parce que il va mélanger des choses qui sont franchement très bonnes, ses déboulés sur l'aile, son placement sur des centres en transversal qui viennent côté opposé, la capacité qu'il a à parfois éliminer un ou deux adversaires sur un petit crochet, donc ça, tout ça c'est vachement bien, alors qu'à côté ce gars-là est incapable de tirer un corner au deuxième poteau. Ces corners sont catastrophiques, quoi.
Oui, c'est
et donc on a des joueurs.
Ouais, il a intégré la marque de fabrique, ça c'est comme
un corner à la Johansson.
C'est comme à Barcelone, t'apprends voilà à jouer. Au Racing, t'apprends à rater tes corners. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu un corner. Vraiment.
Ah si, Lienard les tirait pas si mal.
Quentin Auton les tirait bien aussi.
J'ai vu Gaëtan Krebs tirer une fois un bon corner en match amical à Colmar.
Il est tombé derrière. Hein,
et après, il n'a plus jamais joué de la saison.
Ouais, c'est ça.
Mais qu'on salue.
Gaëtan Krebs, il déplaçait à peine le poteau de corner. Donc,
il est entraîneur au centre de formation.
Tout à fait. Donc, ouais, un mec comme Bakois, par exemple, est étonnant de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il a une palette assez complète. Et là, en ce moment, il est plutôt en forme. Et tant mieux pour nous. Mais à côté de ça, il y a encore des lacunes techniques qui sont monstrueuses. Bon. Oui. On ne va pas tirer sur la pauvre ambulance Emega qui est incapable de faire un contrôle correct. Là, on est à un niveau...
Alors, Emega, c'est quoi? C'est le nouveau Nyang? C'est-à-dire il se crée plein d'occasions, il les rate? Ou alors, c'est vraiment le nouveau Per Pedersen?
Je peux un tout petit peu tirer sur l'ambulance quand même, mais en disant du positif après.
Il est néerlandais.
Ouais, déjà, ça, c'est détestable. Mais.
Ils sont radins, les Néerlandais.
Ouais, puis sur l'autoroute, l'été, c'est chiant.
Ouais, carrément. Mais. Moi, une fois, j'en avais un gars avec un planeur derrière dans une montée de c'est l'enfer, quoi.
Mais mes gars, en fait, je crois, on l'a déjà dit à un professeur Radio Stoub, sur le plan de vue football technique pur, c'est-à-dire assurer une passe, assurer un contrôle, une conduite de balle, ce que tu apprends quand t'es débutant, quoi, enfin, dans les jeunes années. Là-dessus, il a des vraies lacunes. Et je ne sais pas si ça, c'est rattrapable.
Parce qu'il a sauté une classe, mais pas la bonne.
Ouais. Bah, aussi, Emega, c'est en 2003, je crois, de mémoire.
Ouais, c'est possible.
On est son quatrième club pro. Donc, il a aussi une instabilité là-dessus. Il a été peut-être lancé trop jeune aux Pays-Bas pour en faire un actif que tu peux vendre assez facilement. Donc, sans forcément finir sa formation.
Il n'y avait pas de place. Le polder est en train de se rétrécir. Et tu vas aller en Autriche.
Et du coup, il y a ces lacunes-là. Mais par contre, je pense qu'en termes d'activité, même de déplacement, là, il joue en 4-3-3, mais il a aussi tendance à revenir au milieu de terrain, aller chercher ballon, dos au but, servir de relais pour les ailiers. Je crois qu'il a quand même un fond là-dessus sur le placement, les déplacements. Mais enfin, après, ces lacunes sont peut-être encore rédhibitoires aujourd'hui.
Mais surtout, il est nul devant le but, quoi. Enfin,
genre, voilà, pour faire le.
Ouais.
Voilà,
putain, mais c'est pas possible de rater.
Il en marque.
Il a marqué, oui.
Genre, c'est quoi, comment on dit, une montre affiche la bonne heure de fois l'heure.
Une montre cassée affiche deux fois l'heure. Oui.
Voilà, et les gars, c'est pareil. Genre, tu rates 20 tirs, il y en a un qui rentre par hasard. C'est un peu ça.
Il a marqué contre le Havre.
Ouais, moi aussi, j'ai marqué contre le Havre, genre.
Et il marque contre le Havre avec le service de Bakois. Très, très belle passe de Bakois. Mais il est aussi à l'origine du but dans la construction. C'est lui qui fait le décrochage, qui sert Bakois derrière et qui est bien placé par la suite pour finir. Donc il y a un fond. à mon sens, ça vaut pas 13 millions d'euros. C'est un jeune qui a quelque chose quand même, mais c'est...
Il a quelque chose, mais c'est pas du football.
Ouais.
C'est... Il y a un physique, il y a une présence. Bon, en fait, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que je trouve son jeu de dos au but assez médiocre.
Non, mais il essaye.
Il essaye. Il fait des déplacements, de il sollicite la défense, mais un joueur de ce gabarit-là, avec cette capacité d'abattage, devrait être beaucoup plus précieux dans le jeu de haut but, parce que finalement, effectivement, on est passé davantage à un système de pressing, mais notre jeu d'attaque, à partir du moment où on a réussi à récupérer le ballon, reste un jeu très en transition, c'est-à-dire qu'on a besoin de balancer, on mise sur le fait qu'on a des gars sur les ailes qui vont aller assez vite.
Que Diarra percute dans l'axe.
Voilà. C'est ça. Mais en revanche, ce jeu qu'on pourrait un peu plus installer si on avait un avant-centre qui sait jouer au dos au but, remiser, gagner les quelques secondes qui vont bien pour faire remonter le bloc, ça on l'a absolument pas en raison des lacunes de Emega où systématiquement un contrôle va rebondir 5 mètres plus loin.
Il y a Saïd qui est peut-être un peu plus proche de ce rôle.
Ah, c'est mauvais aussi.
Mais
hein.
Meilleur qu'il est, gars.
Non, mais Saïd a eu une petite fenêtre de tir au mois de janvier. Mmh. Il a marqué. C'est où qu'il a marqué?
Contre Avoine Chinon, un doublé.
Bon, ça.
Et contre Clermont.
Il a marqué clairement en coupe.
Ouais.
Ouais.
En championnat.
Ah oui, en championnat, pardon. Disons, il était pas loin du compte, mais malheureusement, contre le PSG, Saïd a un peu mangé la feuille en début de match.
Ouais. Oui.
Même si j'ai pas revu l'action, mais je
pense qu'il quand même. Il peut la mettre.
Bon, il donne un bon marqué.
Gamero la met.
Voilà, à bout portant. Ouais.
Saïd, c'est
et
un peu.
Et ensuite, Saïd, ce match-là, bon, il sort, il est remplacé assez tôt. Et ensuite, tac, il est blessé. Enfin, c'est malheureusement un peu son syndrome.
Ouais, ouais.
Dès qu'il peut enchaîner et tout, soit il y a un truc qui va plus. À son niveau perso, où il y a le concurrent qui revient. Mais là, c'est dommage parce que...
Il n'y a pas de concurrent, là.
Même si Emega est très loin de marquer les esprits, autrement que par ses simagrées, ouais, côté Saïd, je suis un peu déçu.
Bah, c'est un peu un TER qu'on t'annonce avec 20 minutes de retard et qu'ensuite, on supprime carrément de l'écran sans rien dire. Enfin, je veux dire, moi, j'ai le sentiment d'être à la gare, là. Ouais, voilà, c'est ça, le mon TER pour Sarreguemines.
TER Saïd.
À 19h16, voie 7, ça fait 20 minutes que j'attends dans le froid, et finalement, il y a un gars de la SNCF qui a décidé d'appuyer sur le bouton sucre.
Oh, tu reçois le SMS, quand même.
Ouais, et puis éventuellement, si t'as de la chance, un panier repas et une bouteille de Vittel, quoi. Mais enfin, non, c'est...
Non filtré, le Vittel.
Non filtré, ouais, évidemment. Avec des vrais morceaux de bactéries, un peu de vie quand même dans ce monde. Donc ouais, non, c'est pas. On a un jeu qui s'appuie sur le fait qu'on a une domination physique, qui s'appuie sur un certain talent, sur des latéraux qui tournent plutôt bien, sur un milieu de terrain à 3 qui a réussi à s'imposer. Mais en fait, contrairement à d'autres époques, on ne sent pas vraiment une capacité à aller plus loin. Moi, j'ai plus le sentiment d'un système qui a été poussé, bien optimisé, ça c'est vrai. Et il faut bien reconnaître que notre ami Vieira a réussi à une métamorphose assez inattendue.
Coach Vieira,
ouais.
Patoche.
Ouais, c'est un peu moins patoche.
Pas un coach.
Ouais, ça reste patoche.
Ouais,
très bonhomme quand même. Il est dans la bonhomie, quoi.
Il a même pris un carton contre Paris, c'est ça? C'est Paris, je sais plus.
Ah ouais?
Ouais, il y a des matchs où il a pris un carton jaune, je sais pas si c'est contre Paris.
C'était il y a pas longtemps, c'était à la Méno, vu qu'on a joué que le Havre ici. C'est pas vraiment un match.
Par rapport au carton.
Mais on le sent, il vit les matchs, il est à fond, patoche.
Ouais.
Mais ce que tu dis sur la marge de progression, c'est il y a peut-être pas forcément de marge de progression collective, effectivement, parce encore que le jeu il est quand même c'est pas élaboré non plus, c'est efficace.
Non, mais
par contre la progression elle est forcément individuelle.
Ouais.
Un manga, bah quoi, eux, ils sont sur une lancée pour continuer à progresser comme ça.
Ouais. Après le match du Havre typiquement était le PSG est un peu à part parce que le PSG Paris jouait vraiment à 2 à l'heure. Et quelque part, ces matchs contre Paris sont finalement presque faciles parce que c'est tellement attendu que tu prennes une volée que si tu prends une volée, bah c'est pas grave. et que si tu fais quoi que ce soit d'autre, même si tu finis par perdre, c'est toujours très bien. Donc je pense que Paris, avec un Paris qui jouait vraiment, enfin la moitié des mecs de
petit
Paris
trop
marchaient sur le terrain, quoi. C'est un peu, un trompe-l'œil. En revanche, le match du Havre est vraiment un match où on se crée énormément d'occasions, où on tire beaucoup au but.
J'ai pas vu la première mi-temps. Est-ce que la première était...
C'était plaisant. C'était vraiment plaisant.
La deuxième était marché dessus pas, de manière honteuse.
On a de multiples occasions. En fait, le schéma est quasiment toujours le même. Hein. Récupération assez haute, transition rapide, éventuellement un changement d'aile. Donc il n'y a pas non plus un registre hyper étoffé. En revanche, il y avait une vraie équipe qui avait de l'allant et qui se projetait très vite. Des courses qui étaient coordonnées. Donc ça, on sent qu'il y a peut-être quelques semaines, quelques mois d'automatisme en plus qui font que ça va marcher. Et je pense effectivement, le fait d'être capable de faire un pressing coordonné qu'on ne faisait pas auparavant a joué.
Alors, j'ai une petite question, Mittel, quand même. Ça fait partie du contrat, hein. Avec Alcatel.
Télic.
Alors, Coyote67 nous dit « Pourquoi ne pas positiver pour une fois ?»
Bon, on le fait, là.
Bah, exactement, on répond avant même, on avait déjà lu la question, ça va un peu tricher, mais et voir une équipe certes dixième, mais pas décrochée de la dernière place européenne, qui a encore un coup à jouer en Coupe de France, et surtout qui a un jeu qui commence à être intéressant et spectaculaire, manque juste un booter, je sais, trois petits points, bon, c'est pour Eméga, mais positiver un peu les gars, tout n'est pas noir.
Ouais, après c'est des phases qu'on a souvent connues à cette époque de l'année, hein. Si on réfléchit à des périodes lorées où on va gagner à Monaco... Et on se retrouve exactement
au mois de janvier 2019.
Ouais, dixième, neuvième.
Avec la naissance du parcours en coupe de la Ligue.
Donc c'est pas, on a déjà été là. faut bien avouer que au moins on voit du football, ce qui n'était pas le cas à Stoughton. Donc je suis d'accord sur le fait de positiver, ça n'enlève évidemment rien au reste, dont on parlera ensuite. Mais il serait
Et par rapport à la coupe, moi, j'ai eu une sorte de pressentiment. Bon, ça n'a rien à voir, mais je me suis dit, le championnat, on a simplement gagné 3 matchs ces 3 derniers mois. Mmh. Parce que là, la série est toujours valable. On n'a pas gagné plus.
On a fait 3 victoires consécutives.
Voilà, 3 victoires. On a l'impression qu'avec 3 victoires, on s'est maintenu. Mmh. Même si, bon, il reste encore à verrouiller cela, mais j'ai eu le sentiment que le parcours en coupe pouvait être une manière de pimenter la saison. Parce que le championnat, vu que ça avance tellement lentement derrière, on est quand même à l'abri. Et devant, bon, je ne vois pas tellement la dernière place qualificative, je ne sais pas laquelle c'est. 6 ou 7e ?
6.
6, bon.
Bah, si on gagne la coupe, ah,
on est quand même, je pense, loin derrière, même si Rennes, voilà, on est actuellement pas trop loin de. Un peu dans les mêmes eaux que Rennes.
Mais, ouais, mais Rennes, ils sont.
Ça devrait finir, voilà, ça va finir par se. Par revenir à la normale, quoi. Et j'ai l'impression qu'on est dans un creux de 10e où on va peut-être pas bouger. 19e.
Ouais, mais il n'y a pas besoin de plus. Hein.
Donc la coupe peut devenir l'objectif, quitte à ce que ces matchs soient pas. Que les matchs de championnat soient pas vraiment pris à fond, quoi. Enfin, le match d'avant-hier du Havre était peut-être prioritaire par rapport à celui de Lens. Et rebelote pour le tour suivant.
On pourrait dire ça si on avait les moyens de faire tourner l'effectif.
On peut pas, justement. On peut pas, mais ils ont l'air capables d'enchaîner les matchs. Sachant que Vieira aussi, à un moment, s'est dit « Ouais, on dirait que les joueurs trépignent, ils sont prêts à enchaîner les matchs, mais il n'y a pas de match. Il y a trop de trêves, ou il y a des... »
Mec, ils ont dopé à fond, là.
Ça va jamais, ils râlent tout le temps.
Avec 34 matchs, il y a des semaines où on joue pas... Voilà, donc
non, mais c'est sûr qu'il y a cette
appétit. Je pense que l'effectif, même s'il est très très diminué, et les gamins, on les renforme, donc
alors, bah,
l'aspect Coupe de France, ouais,
et t'as joué à fond. Il y a Chris Neudorf qui disait, après la démonstration contre le Havre, on peut dire démonstration, genre, quand même, c'était ouais. Presque honteux. Hein, genre, d'ailleurs, le Havre, il joue quoi en national.
C'est un promis, quoi. Donc, ouais. Encore heureux que Strasbourg qui est monté en 2017 non, est meilleur que le Havre qui est monté en 2023. Non, ils sont juste derrière. Ouais, juste derrière.
Pas très loin.
Mais juste derrière, bon.
Et pour peu qu'on récupère rapidement des forces vives, ça, on en parlera. L'Europe, sur les deux tableaux, est-ce réaliste?
Absolument.
Donc, je pense que Kipper dit non.
Sur la Ligue 1, non.
Sur le championnat, non.
Mais sur la coupe, pourquoi pas? Après, la coupe, c'est toujours pareil. Ça s'arrête.
Ça s'arrête quand on joue le PSG, mais si on se joue en finale au PSG, ce serait pas mal. Au moins, on pourrait y aller.
PSG à Lille.
peut-être.
Ouais, ouais, ça ouais, se voit. Bon, Rouen, à Lille. Ça peut être marrant.
Ou Rouen, Rouen. Au stade Robert Diochon.
La finale.
Avec les
deux. La Coupe d'Europe, c'est. Effectivement, on pourrait toujours rêver d'un parcours en Coupe si le PSG. Si le PSG
avait la bonne idée de se faire baiser par Nice. Comme.
C'est possible. Hein.
Mais non, c'est pas impossible.
Nice, ils sont vraiment nuls en finale.
En championnat
Non, en finale aussi. Genre, les finales, ils ont foiré quasiment toute leur finale, Nice.
Ouais, c'est vrai. Et sauf la Coupe de France 97 quand ils descendent en D2. Mm. Avec Valon Conny dans les buts.
Ils perdent pas une finale contre Nancy en Coupe de la Ligue.
Si,
si, 2006 avec Antonetti.
Monsef-Zerka.
Ouais.
Non,
et Chouafni.
Ouais.
Chouf. Donc on voit ce mieux. Donc dans la forme, il y a un mieux. Il y a des satisfactions au niveau des jeunes joueurs.
Alors, la politique, Senaya aussi, faut en parler.
Senaya, pur produit de la formation strasbourgeoise, alsacienne, qui vient de
Saint-Louis. Bah non, il vient de Saint-Louis.
Oui. Togolais d'origine.
Enfin, même s'il est pas né en Alsace, on a appris ça il y a quelques mois.
Il est né à Bâle, hein, c'est ça?
Non, il est né en région parisienne. Et en fait, la famille a déménagé quand il avait 3 ans. Mais.
Ok.
Voilà, c'est comme Diarra qui était soi-disant né à Mulhouse, machin, et finalement il est né au Sénégal.
Il est arrivé quand il était gamin aussi, voilà.
Ils sont alsaciens, on les prend.
Bon, après, en termes de niveau de vie entre Mulhouse et le Sénégal, tu peux confondre.
On peut confondre.
Mais Saint-Louis, ça va.
Saint-Louis, ça va, c'est les miracles.
Si tu vas chez Novartis, c'est.
Tout à fait, ouais, bon, c'est que des salauds, ces gars-là.
Bah oui, bien sûr, bonjour, hein, j'ai fait
rends l'argent.
Donc, du coup, Senaya, grande satisfaction. C'est vrai qu'on l'a prêté, en se disant, genre, un peu un parcours à
Cédric Canté,
ouais. Voilà, exactement.
Les deux prêts en D2.
Et finalement, cette année, on lui donne sa chance, il se révèle, et là, il marque même son premier but à la Méno devant le COP.
Premier but avec le Racing, ouais.
Et son tir était cadré ou pas? Parce que.
On s'en fout.
Une trajectoire un peu bizarre.
Je sais pas si
ça tire sur le gardien, si c'est le gardien qui l'a dévoué ou le défenseur.
C'est un but de Senaya.
Mais oui, ça compte. Ouais.
Ouais, après, moi, je l'aime bien, Marvin.
Ouais. Marvin, c'est un prénom.
Dans mon baromètre.
Ouais, c'est pas mal.
J'ai un baromètre un peu orienté en général, mais Senaya y figure.
Moi, je mets toujours des joueurs formés au Racing, donc voilà.
Ah. Et alors, on a.
C'est la préférence nationale.
Voilà, on a Diarra, pareil, encore un joueur formé au Racing qui résurrection un petit peu. Après un début de saison difficile.
C'est ce que je disais, il revient à son poste dans l'axe.
Et à son niveau. Donc, dans les jeunes, alors il y a les deux Bordelais, comme on les appelle, avec tous les jeux de mots pourris que la presse s'empresse de faire. Genre, il y avait Magnum de je sais pas quoi, frais, c'était vraiment nul dans les DNA de hier ou d'aujourd'hui. Alors, on a parlé de Bakwa, moins de Mwanga.
Mwanga, il est sous-coté parce que c'est vraiment un de nos meilleurs joueurs actuellement.
Sous-coté, c'est-à-dire que le Racing devrait l'acheter.
le vendre.
S'il est sous-coté, il faut l'acheter.
Sous-coté, peut-être aux yeux des spectateurs parce qu'on ne souligne pas forcément son apport sur le terrain, mais c'est vraiment notre régulateur au milieu. Hein. Des trois milieux qu'on a
cités.
Il a une aisance technique et il est très intelligent dans son placement. On l'avait dit un peu off, au milieu de toutes les autres histoires. Un Diarra, c'est un joueur qui va plus jouer sur le volume de course, sur les duels, le physique. Mwanga, c'est le mec qui a presque pas besoin de courir parce qu'il est toujours bien placé et il sait tout de suite ce qu'il va faire. Donc il a pas forcément besoin de trop se dépenser. C'est pour ça que c'est vraiment le régulateur du milieu.
Merci Gérard Lopez.
Ouais, merci Gérard Lopez.
C'est vrai qu'au début, ça pouvait ressembler à une arnaque, 20 millions pour deux jeunes de 19-20 ans. Mais finalement, on est peut-être enfin devenu un peu...
Bon, c'est quand même un peu une arnaque. Hein, mais
ouais, c'est cher.
Ça reste cher.
Je pense qu'eux, on va les revendre plus cher.
C'est quand même le troisième transfert historique du Racing. Hein.
Ouais, bon, après, c'est sûr qu'il y a du potentiel chez les deux. Mais, ouais, un mec comme Mwanga... c'est un joueur de première ligue en devenir. Il va rester chez nous un an et demi, deux ans et demi maximum, le temps de se faire un peu de barbac, un peu de muscu, là, de choper quelques prots. Et après, ce sera, il partira chasser la
gueule. Wolverhampton,
chasser la gueule à Cardiff. Ou à Wolverhampton, ou à Sunderland.
Cardiff, il faut qu'il y aille en ferry ou avec l'Eurostar.
Ouais, en Middlesbrough, tout ça.
Emiliano,
tout ça.
Est-ce qu'on a d'autres satisfactions encore que le niveau des joueurs là? bah, le joueur, hein, on peut mettre des notes aussi, Perrin, comme l'équipe.
Ouais, j'allais dire.
Perrin, faut-il.
Que faut-il en
bombarder Perrin comme le. L'incarnation le de ce nouveau Racing.
Moi, j'avais un peu l'impression de voir, à la fin du match, de voir. Il était tout seul, un petit peu décalé du reste de l'équipe. J'avais l'impression de voir un peu le Dimitri Yenard. Ça a l'air décalé par rapport à l'équipe. T'es en train de vouloir faire la fête alors que bon, les autres sont un peu dans leur truc. Bon, ok, c'est bon, on applaudit avec les cons là.
Ouais,
ah, non, je pense qu'ils étaient contents. Hein, je déconne. Je pense que sincèrement, tous les joueurs étaient contents de la qualification, contents de pouvoir fêter ça dans une minute qui n'était pas pleine, mais qui était quand même bien remplie pour un match de coupe un mercredi soir. Mais j'ai vu Perrin un peu tout seul et je me suis dit, putain, on dirait Lienard.
En fait, Perrin va.
Il est arrivé comme mascotte au Racing.
Il va forcément. Il va forcément rehausser le côté joueur de club. C'est vraiment un joueur de club. Perrin est un joueur qui, moi, m'est très sympathique. Il lui arrive de faire des conneries. Hein. Le penalty contre Paris, contre le PSG, il est pour lui. Mais il y a vraiment ce côté. Justement, par rapport à des Bakwa et du Mwanga, où on en est encore à disserter sur du potentiel et à noter quelques très grosses lacunes, Perrin, c'est un peu un schéma inverse. C'est-à-dire que.
Il est au taquet.
Il n'est pas tout à fait au taquet. Il progresse en prenant de l'expérience, ce qui est important à un poste de défenseur. Je pense plus que dans un poste d'attaquant. Mais effectivement, il ne poussera pas beaucoup plus loin. Tu vois, c'est. Il est sur la voie de gauche, le contour commence à bien monter. Et...
Après, c'est Bastia Belfort, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura une Audi derrière lui qui lui fera des appels de phare en mode dégage. Voilà, c'est ça. Mais c'est évidemment, on a plus de facilité à s'identifier à un mec comme ça qui, par ailleurs, a effectivement l'air d'être. D'être plus en résonance avec le public, de mieux comprendre un peu ce que
c'est. C'est quand même le mec qui fait des raclettes après une qualification, après je sais plus quelle victoire. Ouais.
Comme tout le monde.
Ouais, non, mais genre qui poste la photo de la raclette avec les sachets de raclettes. Genre Leclerc qui sont sur le truc en mode ah, ce soir c'est raclette, tu vois, genre en mode rien à foutre, ouais, genre je vais pas faire une photo Instagram, je mange une raclette, j'ai envie de dire que je suis content.
Il était pas à la cloche à fromage.
Le gars
a l'air assez cool, honnêtement.
Effectivement, le nouveau Lienard, un peu.
Je mangeais pas une raclette chez lui, par contre.
Mais t'as envie de l'avoir à ta table quand tu manges une raclette.
Ouais.
Alors que si Soko, tu te dis, genre, j'aurais rien à manger, quoi.
Ouais, mais tu peux aller dans le carré VIP. Tu peux aller dans le carré VIP au Domac, tu vois. C'est comme les 1000 clients, le fameux mythe là, des 1000 clients Air France qui ont le droit.
Oui.
Si Soko, ça doit être comme ça chez McDo, tu vois.
Donc, mais c'est vrai que Perrin est une satisfaction pas récente, mais c'est un joueur. franchement, là, sur le coup, je ne sais pas si c'est Loïc Désired franchement, il fallait y croire. Perrin, quand il est arrivé, il fallait y croire.
Ouais.
Et c'est aussi bien d'avoir un joueur comme ça,
et qui est complémentaire. De
et qui fait le taf, hein. Oui.
Il est complémentaire.
Alors, on n'a pas parlé du mercato encore, mais on peut parler peut-être du départ de Niamsi, ou on parle d'abord de Silla.
De Silla, parce que Niamsi c'est plus le fond.
Silla, est-ce que vraiment il a progressé ou est-ce qu'on est obligé de le faire jouer?
Non, il a progressé quand même.
Bah, Il a réglé son...
Il est sobre, tu veux dire, maintenant.
Et il a réglé son problème de réveil.
Je prendrai un petit peu... En parlant de sobriété, je prendrai un petit peu d'amer alsacien, évidemment.
Notre partenaire.
Si, et puis j'irai rechercher les bières pendant que. Vas-y, on mange.
Mais oui, Silla qui.
Alors c'est comme Nescafé, genre une seule cuillère suffit normalement.
Ok, ce n'est pas la peine d'en rajouter.
Ouais, voilà.
Silla qui est plus sérieux, qui est plus concentré sur ses matchs, alors que les premiers matchs où il avait en début de saison, j'avais l'impression qu'il jouait un peu avec facilité sur ses acquis.
Sur ses relances, ouais.
Gris-gris.
Il prenait beaucoup de risques. Et là, ça va beaucoup plus.
Ouais, il y a quand même encore l'un ou l'autre. Il y a quand même toujours l'un ou l'autre craquage à la relance. Hein.
Le Havre ou le PSG, il fait un moment, il y a une espèce de petite semi-roulette.
Qui était parfaitement malvenue.
Ouais.
Contre le PSG, il y a quand même cette action extrêmement décevante où, en fin de match, là, il est en position de faire une tête.
Seul face au but
et tête de poussin qui avait qui ferme les yeux.
On dirait un truc en baseball quand le gars passe à son catcher, quoi. Enfin, c'était quasiment ça. Donc, Silla, Enfin, en fait, les deux transferts un peu de tête d'affiche que sont Emega et Silla, pour l'instant.
Alpha et Emega.
Ouais, sont pour l'instant des échecs, quoi.
Ah, je sais pas si c'est pour Silla quand même, mais failli.
20 millions, tu vois.
Oui. En rapport qualité-prix, on y est.
Postillonné.
T'imagines le nombre de Golf TDI que tu peux acheter avec 20 millions.
Les Golf TDI Mark Keller, comme dans la pub.
C'est ça.
Non, c'était une 205. Il y avait une pub.
205 Mark Keller, ouais.
De pub des années 80.
Le jour, ouais, il avait le jogging Adidas, là, un peu dégueulasse.
Oui.
Putain, la 205 Mark Keller, quoi.
C'est une super voiture, 205.
Bref. Dis le socio de Sochaux, là.
C'est vrai.
C'est ça. Il y a 1786.
T'aurais pu prendre 1664 ou je sais pas, ou 1906. Bon, alors revenons donc Silla, il y a des fans.
Bah, je suis pas fan non plus, mais
je trouve positif.
Ouais, je trouve qu'il s'est installé quand même en titulaire. Il fait plus tâche comme il pouvait.
Ouais, mais après, les autres sont soit blessés, soit on les dégage. Alors, du coup, c'est un peu facile. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment dégagé tout pour que Silla joue, en fait. C'est ça qui me gêne. Il me gêne moins dans. Effectivement, je le trouve. Disons, il se fait moins remarquer. Alors, c'est l'élève qui foutait le bordel au début, qui faisait des conneries. Maintenant, il se cache derrière Perrin. Ah, s'il fait une connerie, ça se voit un peu moins. Hop, ça va.
Mais maintenant, l'enjeu, ça va être au moment du retour de Doucouré, qui, je pense, va plutôt repartir en défense centrale.
Il n'y a plus de place au milieu. Ouais,
oui, mais qui tu enlèves? Est-ce que tu enlèves Perrin ou tu enlèves Silla? Maintenant, à mon avis, c'est vrai que si tu enlèves Perrin, tu risques d'avoir un problème d'équilibre quand même.
Qui va faire des déroulades?
Ouais. Il peut le faire depuis le banc de touche.
Et Perrin, à ce côté, Perrin mouille le maillot. C'est là qu'il. À ce niveau-là, quand t'es un poste de défenseur central dans une équipe qui va subir au moins une partie du match, Perrin, à ce côté-là, où dans une dynamique d'équipe, il va aller 2-3 fois dans le match faire le tacle un peu rageur, qui peut-être sur le moment d'un pur point de vue technico-tactique va pas porter grand-chose, mais qui dans la dynamique de l'équipe montre un certain degré d'implication. Ouais. Un mec comme
Silla, la grinta.
Ouais, un mec comme Silla flotte un peu quand même encore. On a l'impression d'un type qu'on a mis là parce qu'on a décelé que peut-être ça pouvait marcher. Le costume est un peu trop grand pour lui. C'est un joueur qui dans l'ancien football serait peut-être un jeune espoir sur le banc qui finit les matchs le temps de se constituer une expérience et un bagage, et qui là est propulsé, à mon avis, dans un costume qui est trop grand pour lui. C'est pareil que son collègue avant-centre. Inversement, les Bordelais, qui avaient déjà plus joué
une saison,
en D2...
Même en D1, je crois qu'ils n'avaient pas...
Ouais, ils ont un ou deux matchs.
Un ou deux matchs, je me souviens.
Comme Bordeaux coulé, ouais.
Voilà. Non, mais ça te donne une preuve. Enfin, c'était pas. Voilà, ils débarquent pas. Genre, c'est vrai qu'effectivement, Emega, son premier match dans un vrai championnat, ça date de cet été.
Il a mis 9 buts en Autriche.
Ouais, voilà, un vrai championnat, c'est ce que je disais.
J'ai une question, tiens, j'essaie de trouver. Rocoras, qui dit: au vu de ce qu'il reste comme joueur, Doucouré peut-il être considéré comme un taulier du club pour la saison prochaine?
Bah, donc ça rejoint où on va mettre Doucouré?
Bah, c'est déjà un des plus anciens de l'effectif. Hein. Enfin, il est dans la première moitié des anciens de l'effectif. Mais Doucouré, je pense qu'il a quand même plus d'avenir en défense centrale. C'est vrai que quand il a été mis au milieu de terrain...
Il n'a jamais fait un bon match au milieu de terrain.
Ouais, t'avais l'impression que c'était vraiment pour bricoler parce qu'il manquait du monde. Là, on a un milieu de terrain qui est installé. Doucouré, je pense que c'est un très bon défenseur central quand même.
On pourrait pas faire reculer Sissoko en défense centrale, mettre Doucouré au milieu pour rigoler?
On a déjà essayé pour rigoler. Doucouré, c'est le profil type du défenseur central d'une défense à 3, ce qu'on a plus là. Faudra voir ce que ça donne dans une défense
à
4.
Est-ce qu'on repasse une défense à 3?
Bah non, on n'a pas de défenseur central, je pense pas.
Mais on a plus d'attaquants, donc on joue en 3 derrière et on garde notre milieu.
On joue en 5-5.
Non, mais avec Bakwa en faux attaquant.
Ouais, comme contre le
faux neuf, je sais pas quoi.
Non, mais
si jamais.
Mais je pense que le retour de Doucouré va être intéressant à suivre quand même. Parce qu'il va. Je pense qu'il peut quand même gagner sa place de titulaire. Hein. Ça reste un bon joueur.
Sauf si, je sais pas, tout à coup, l'été prochain, on l'envoie. Je sais pas.
À Middlesbrough.
Ouais, voilà.
Il reste très suivi en Europe. Hein,
non, parce que, notamment Niamsi, le départ est quand même. Très, très précipité, même si on va peut-être. et revenir après.
Bah, est-ce qu'il y a des trucs bien sur le fond encore, sur le fond? Alors c'est que les questions sont plutôt agressives sur la forme. Est-ce que sur le fond il y a un truc bien
Sur la forme. Oui,
qu'est-ce que vous avez pensé de Storky avec le maillot de la Coupe de France sur la forme?
Bah, Storky était toujours très en forme.
Enfin. Ouais. Après Storky est un peu là. Il rejoue des choses déjà faites. Alors c'est toujours.
Oui.
Très,
mais la danse c'est toujours une chose.
Ouais, c'est toujours très bon. Le choix musical est vraiment excellent parce qu'on est dans les grands hommages. À la chanson française, on a eu du Goldman, du Sardou. je pense que la prochaine étape, c'est peut-être de faire des prestations, d'aller un peu plus chercher des inspirations caribéennes.
Reggaeton,
Bob Marley, tu vois. Enfin, je pense que...
En plus, on est totalement dans la période Bob Marley. Hein,
ouais, bah oui, c'est ça, il y a le film qui sort et tout. Donc je pense que là, tu vois, genre Storky avec le bonnet un peu rasta, qui fume un bon gros bédo.
Ça, il le fait déjà.
Devant le stade.
Bah d'ailleurs, c'est peut-être pour le prochain match, parce que moi j'ai appris que la soupe des guns est reportée d'un match.
Ah, c'est encore contre l'Orient, normalement.
Bah, c'est plus contre l'Orient, c'est contre Brest.
Exclusive.
Du coup, est-ce que.
Tu vas finir par faire la soupe au mois de mai, quoi.
est-ce que ça sera hommage à Bob Marley, peut-être, pour la sortie du film directement dans la foulée? Ça pourrait être sympa. Alors là, s'il y a Storky en bonnet rasta.
Il y a juste un truc avec.
Storky and the Violers.
Ouais, ouais. Les coéquipiers de Storky.
La Storky Team.
Les deux gars qui balancent des t-shirts là.
Ouais, bah, les canons à t-shirts sont peut-être un peu réglés fort parce que je crois contre le PSG, ils ont failli blesser quelqu'un entre mine d'or.
Ça serait pas.
Ouais.
Là, on retrouve notre
assez. Flashball.
C'est ça, quoi.
Et Bordier.
Alors, est-ce que sur la forme, il reste des choses qu'on peut dire que c'est bien?
Donc, la vitrine est plutôt bien.
La vitrine est propre. Mais disons qu'on a nettoyé un peu la vitrine pour la nouvelle année. Des bonnes résolutions.
On a bien mis le prix en dessous.
Donc là, ceux qui sont toujours encore très optimistes, ils peuvent arrêter l'écoute.
Là, je veux dire que les questions ne sont pas hyper optimistes. Parce que là, on va passer sur le fond. Ah. Bizarrement, je crois que j'ai même pas des questions sur Matt Sells, alors que nous, on a envie de parler de Matt Sells. J'ai quand même regardé vite fait, je fais JP Arky, attention, je regarde consulte sur ma tablette.
La régie te souffle à l'oreillette.
Un vrai attaquant.
Je lui permets juste.
Ouais, vas-y, je cherche.
On n'a pas du tout parlé d'Angelo.
Ah oui, mais attends,
c'est une satisfaction. Parce que...
Alors, moi, je pense pas que ce soit une satisfaction.
Ah, voilà, d'accord. Moi, je trouve qu'il y a du mieux. Définitivement, le mec n'a pas besoin de faire un test ADN pour savoir qu'il est brésilien. Genre là, Jean-Marc Furlan, pour dire, il n'a pas renié ni ses gènes ni sa race. Le mec, c'est le pur.
Citation.
C'est le pur. Citation, évidemment.
Non, mais c'est le pur
brésilien.
Ce gars-là ne peut pas, je pense, en l'état, réussir dans le football européen pour une raison très simple, c'est qu'il ne défend pas.
Oui.
Il fait semblant de défendre, ou alors il se jette. Et en fait, on peut pas avoir. Alors évidemment, au Racing, dans une Ligue 1 qui est un petit peu sinistrée, et avec 10 autres gars qui tombent plutôt à bon régime, ça, c'est un peu masqué, mais ce mec-là est incapable de défendre.
Ouais.
Soit il fait semblant de faire un geste pour se mettre en opposition, mais en fait, il ne le fait pas vraiment. Soit il se jette, il est à contre-temps. Soit un jour, peut-être qu'il finira par se dire... oh, y a Tlangst, et il va prendre un rouge parce qu'il aura fait un truc inconsidéré, mais c'est juste pas possible, en fait. Enfin, alors après, je sais bien, il fait des passes décisives, il fait des grillés, il fait tout ce que tu veux, mais c'est pas possible.
Il me fait penser à une phrase d'Arrigo Sacchi, il était plus forcément entraîneur quand il a dit ça, il parlait de Stéphane Dalma.
Ah oui, j'avais...
Et il disait, il est excellent avec un ballon, mais il ne sait pas jouer au foot. J'ai l'impression que c'est ça. Enfin, techniquement, on est complètement à l'opposé des mégas. Il est excellent avec le ballon, il sait faire des gris-gris, il sait faire des jambes, il dribble et tout ça. Par contre, il a vraiment des lacunes tactiques.
Et parfois, il fait des passes.
Et il a des éclairs quand même.
Des éclairs, oui.
Est-ce que vous pensez que Blueco a trouvé la solution pour fusionner des joueurs?
Ouais, faire un genre de brebis de.
Et méga avec. Angelo et Méga.
Le physique des Méga, ses qualités athlétiques
et les pieds d'Angelo.
Ah ouais.
Peut-être que c'est ça le futur du football. On n'y a pas pensé encore.
Ouais.
Pour revenir à Angelo, est-ce que vous pensez qu'il va bien aimer le carnaval de Rio pendant sa blessure ou pas?
Ouais, signalons qu'il est blessé au pubis.
Au niveau. Ouais, bah oui.
Mais.
La blessure spéciale quad.
Mais il est en couple avec.
Ah oui, la meuf avec les gros seins, là.
j'allais dire assez spectaculaire, mais
on dit une brésilienne, non,
c'est brésilienne, quoi.
Un peu vulgaire quand même, quoi.
Oui.
Mais il est en couple vraiment ou
oui, la butine, parce que c'est.
Et elle est, c'est ici ou elle est c'est à distance. Ça.
Mais elle était à la Méno.
Elle était à la Méno.
Elle était à la Méno. Elle a posé une photo à la Méno avec ses attributs de féminité.
Ah, parce qu'il ouais, faisait chaud.
Ma t-shirt était un peu petit, peut-être.
Et par contre, elle est repartie.
Où c'est les nichons qui tiennent le soutien-gorge et pas l'inverse, en fait.
elle est repartie au carnaval de Rio.
Voilà.
Ok. Comme de par hasard, après la blessure d'Angelo.
Et Angelo est rentré avec la.
Bah, il se fait saluer au Brésil, évidemment.
Ouais, mais il est blessé, il a une béquille, quoi.
Voilà. L'instant
poétique de Radio-Show, on peut passer au fond. Maintenant, on a bien.
Ouais, c'est bon, c'est
on
bon.
Était bien au fond de la forme.
Maintenant, on peut aller
sur l'arrière-boutique. Donc, il n'y a pas de question sur Matt Sells. Évidemment, mais nous, c'est vrai que nous, on a envie de parler de Matt Sells et de ce départ.
Ouais.
Ça c'est le truc. Ouais, vous pouvez pas voir parce que c'est de la radio, mais
je montre une information capitale.
Il y a des photos pires. Hein,
Anchieta, mademoiselle Anchieta, ouais.
Bon, c'est une capture d'écran. Bon, ouais.
Ah ouais, effectivement. Ouais. Non mais bon, c'est après au bout d'un moment, c'est bon. Comme dirait l'autre, le plastique c'est fantastique.
Matt Sells.
Moi, ça m'a vraiment buté. En fait, c'est ce côté genre tu t'y attends.
J'ai pas vu cette photo.
Tu t'y attends, mais ouais, pas mal. Tu t'y attends, mais ça fait mal quand même. c'est un truc qui peut s'appliquer à beaucoup de solutions.
Tu attends.
Ouais.
Bon. La messe.
La messe. Ouais, voilà, tout à fait.
Mais Mathias, est-ce qu'on parle d'avoir des faits de ce qui s'est passé?
Le ressenti, moi, c'est pareil. Comme Strotti, moi, genre, ça m'a mis un peu dans une. J'étais pas content, mais genre, on pondère, on débat. Mathias, c'était vraiment primairement très mécontent avec l'envie d'aller au stade et de avec ma petite banderole, Keller, Rancels, tu vois. Genre.
Ouais, alors c'est intéressant parce que finalement il y a eu deux narrations qui sont un petit peu opposées sur le Stoub et qui je pense sont pas tant que ça à opposer. Ceux qui avaient un peu tendance à tout foutre le dos sur le dos de Sells en mode c'est un arriviste, c'est un déserteur, il a privilégié son intérêt personnel,
c'est un traître,
il nous a mis devant le fait accompli, que voulez-vous faire ma brave dame, on peut pas retenir un joueur et toutes ces conneries. Évidemment la narration sur Keller avec le double discours, le côté appro-gain, les deux fois de suite où on finit par vendre un joueur au dernier jour du mercato alors qu'on le faisait pas avant. Et je pense qu'il faut pas du tout opposer ces deux narrations. Et je pense qu'en fait, les gens sont pas. Très peu de gens sont bons ou mauvais en soi. Tout dépend du contexte. Et moi, j'utilise toujours la même métaphore. Franchement, tu vas en Suisse. T'es sur la route, tu fais du vélo, t'es en bagnole, tout le monde respecte tout, absolument tout le temps, mais son clignotant. Tu vas au centre-ville de Strasbourg, t'as que des mecs avec des plaques suisses qui roulent comme des porcs, quoi. Donc en fait, tout ça pour dire que tout dépend du contexte, et un mec comme Sells dépend énormément du contexte. Quand il est dans un contexte de club qui certes est pas le meilleur club de la Terre, le plus compétitif, le plus riche, mais qui est un club qui est solide sur ses valeurs, où il y a une communion pour respecter l'institution entre les supporters, les dirigeants, l'entraîneur, les joueurs. Un mec comme Sells s'inscrit complètement là-dedans. Quand le club devient une espèce de machine à cash, où il est clairement affiché qu'on n'en a plus rien à foutre et que l'institution est faible, bah le joueur se comporte comme un connard. Sells s'est comporté comme un connard. La vraie question, c'est pas...
Bien ou pas bien ?
Ouais, bien ou pas bien, c'est comment on en arrive à créer un contexte pour qu'un mec qui se comportait pas comme un connard avant se comporte comme un connard, avec des rendez-vous au Sofitel, avec Shahir et toutes ces conneries.
Oui, ça.
Et
Balle pas tout, il y a plein de trucs.
Ouais, et donc, en fait, institution faible... Institution pas respectée. Et cette histoire de Sells, on peut en dire ce qu'on veut, ça ne serait pas arrivé avant. Ce ne serait pas arrivé.
Avec Marc Keller, ça ne serait jamais arrivé.
À l'époque de Thierry Loret, ça ne serait pas arrivé. C'est parce qu'à l'époque, on mettait le club au centre du référentiel. Maintenant, ce qui est au centre du référentiel, c'est l'argent. Et que tout, en fait, est subordonné à l'argent. Et en fait, on ne peut pas, je pense, comprendre l'attitude de Sells qui est profondément détestable si on ne met pas en parallèle l'attitude du club vis-à-vis de Persic et d'Aoulou
qui est tout aussi détestable. Parce que après que Persic et Aolu ne soient pas des titulaires indiscutables, on peut tout à fait le concevoir, qu'on privilégie la jeunesse,
Samir El Mouradi,
etc. On peut aussi le concevoir. Qu'en revanche, on leur dise, bon, maintenant vous avez un gros salaire, vous nous avez bien servi, vous allez dégager et on va un petit peu vous humilier en vous mettant hors groupe, alors même qu'on, parfois de temps en temps, on a été obligé de rajouter, de mettre deux gardiens sur le banc pour remplir le fil des matchs. Un mec comme Cels ne peut pas ne pas voir ça, en fait. Et après, je sais pas s'il est pote à Persich, s'il lui a tenu la tête dans la cuvette des toilettes quand l'autre vomissait ou pas, mais lui, il se dit, en fait, bon, bah, finalement...
Je vais finir comme ça.
C'est, ouais, soit je finis comme ça, soit je prends mon intérêt, quoi.
C'était son destin, en plus, de finir comme ça.
Bah, son départ l'été prochain était de toute façon programmé. C'est son destin.
Non, mais c'était certain qu'il allait partir l'été prochain. C'est juste qu'on a... voilà, il a gagné 6 mois sur son départ.
C'est ça.
Il y a plusieurs trucs que tu as dit sur le...
Il a voulu garder... Enfin, tu as aussi peut-être envie, en tant que joueur, des fois, à un moment, de garder, toi, le contrôle, au lieu de faire... Voilà, je pars au lieu de me faire dégager.
Surtout que là, il a l'opportunité...
Et en plus, tout le monde gagne du pognon, ce qui reste totalement dans l'optique de ce nouveau Racing. Hein, genre, quel est récupère du pognon,
Maxence
récupère
du pognon.
Oui, oui, il n'y a que Nottingham Game Forest qui va tomber en championship.
Avant de parler d'un peu de comment s'est fait le transfert... Il y a Nottingham Forest qui voulait recruter un autre gardien avant Cels, c'était Marco Bizot, le gardien de Brest. Alors Brest a simplement dit non. Écoutez, on fait une bonne saison, on ne veut pas perdre notre gardien titulaire le dernier jour du mercato. Et à côté de ça, il y a un autre club, le Racing, qui, même si derrière ils essayent de maquiller le truc en disant oui, c'est pour service rendu, on ne peut pas retirer un joueur contre notre
gré.
D'autant que c'est Marc Keller qui avait refusé une offre de 10 millions de Rennes en 2022, après la saison de Stéphane. Ça, pour le coup, maintenant, c'est sorti publiquement. Donc, c'est possible de retenir un joueur. Là, on ne l'a pas retenu. Et on ne l'a pas retenu parce qu'on
voit mal Cels, ne pas arrêter des buts parce que ne pas jouer. Ce n'est pas non plus le mec qui allait bouder.
Non, il aurait peut-être boudé une semaine et après
il aurait été content, mais bon, voilà, il aurait fait le boulot.
Donc, tu peux retenir un joueur. Là, ça tombe bien, c'est 8 millions d'euros que tu rentres cash au lieu de le vendre peut-être 5 millions cet été parce que voilà, tu essaies plus de t'en débarrasser. Tu le vends 8 millions maintenant. Et voilà, effectivement, c'était, il a juste accéléré son destin. Et voilà. Enfin, pour moi, c'est pas forcément. Le transfert n'est même pas surprenant. Ça s'inscrit dans la politique actuelle du club de faire partir les anciens pour libérer des places pour derrière valoriser d'autres joueurs.
Ouais, il y a une forme de violence symbolique quand même dans tout ça. C'est ouais, que, en fait, ça part le dernier jour. Ces trucs du départ au dernier jour du mercato. C'est une sale habitude qui a été un peu scénarisée. J'avais regardé genre l'un ou l'autre épisode de la série Sunderland Till I Die, et là, notamment sur ce dernier jour du mercato le 31 août, qui dans les clubs anglais est devenu quasiment une espèce d'industrie à n'importe quoi.
Ça arrive toute la journée.
Ouais, c'est ça.
C'est la trade deadline.
Ouais. Et en fait, où t'as l'impression que les mecs font n'importe quoi parce que c'est le dernier jour. On avait jusqu'ici vraiment résisté à cette tendance. Là, on est tombé deux fois dedans. Et le signal qui est envoyé, il est très clair. Seul l'argent compte. Ouais. Et du coup,
je pense que c'est un bon résumé du projet du Racing.
Oui, et puis et du coup, en fait, après derrière, tu ne peux pas demander à des joueurs. Qui par définition sont des mecs qui ont été propulsés dans le foot pro à un âge de post-adolescents, jeunes adultes, qui ont toujours été acculturés là-dedans. La seule chose qui peut les retenir de se comporter comme des connards, c'est une institution forte qui va dire non, chez moi on fait pas ça.
Comme Brest, justement.
Voilà, c'est ça.
Bon, après Brest, là on est sur une crête, genre disons ici.
Non, mais. Mais même, c'est un petit club qui s'assume, qui fait une bonne saison, mais qui se dit... Enfin, là cet hiver, ils auraient pu vendre...
Ils auraient pu faire comme Lorient l'année dernière.
Exactement. C'est, voilà.
Ils ont conservé tout le monde et ils ont eu une chance de jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine.
C'est un peu cucu, mais ils se disent, on vit une belle aventure, on reste ensemble, on va jusqu'au bout du truc, et peut-être qu'on vendra des joueurs cet été. Mais cet hiver, non, on se permet de garder le groupe, de refuser, je ne sais plus combien Rennes avait mis pour l'Esmelou. Nottingham a dû mettre aussi autour de 8 millions d'euros pour Marco Bizet, mais ils se sont dit non. Enfin voilà, on est un club, on est plutôt bien géré, on n'a pas besoin de vendre, on n'a pas besoin de faire du fric. Et donc, on continue comme ça.
Ça se trouve, ils vont crever cet été, mais...
Oui, mais les supporters sont heureux. Enfin,
ah, oui.
Putain, la base du foot, c'est ça. Ah, c'est vendre du plaisir aux gens.
C'était nous les premiers.
Le foot pro existe pour les gens. Hein.
Tu veux conserver l'équipe, genre quand t'as une équipe qui c'est un peu le drame du départ de Djikou ou de Bellegarde. C'est-à-dire, on avait des mecs qui tournaient, on a envie de les garder parce qu'on a envie de faire mieux l'année prochaine. Effectivement, si le club ne leur vend pas, s'il leur dit juste, l'année prochaine, peut-être qu'on vous vendra plus cher si c'est le seul projet.
Mais l'exemple de Djikou est excellent parce qu'on dit, on peut pas retenir un joueur. Djikou, il a démontré l'exact contraire. Son transfert ne se fait pas dans un contexte qui est un peu particulier. Je pense qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. C'est assez embrouillé entre Hoffenheim, les agents, le Racing, le joueur, son frère. Tout ça, c'est un clusterfuck, colonel. Derrière, la réalité, c'est que Djikou s'est comporté en joueur en professionnel, sans grande effusion, parce que ça n'a jamais été un type qui a trop été dans l'affectif. Mais le mec fait le boulot.
Celle ça aurait fait pareil si on avait refusé.
C'est ça. C'est le leader mental. C'était un mec qui a honnêtement fait très rarement des matchs à chier chez nous.
Il
a
parfois, selon les bonnes statistiques, qui est un peu bizarre. Mais
non, il a fait
erreur directe, pensée dans un but, ou je sais pas quoi.
À 3 la dernière saison. Non, mais en fait, le problème du moment, ce que je reproche à Djikou, c'est
zéro connerie.
C'est que ah bon. Non, Sels.
Pas Djikou. Oui.
Non, parce que Djikou, c'est dommage parce que c'est le
connerie énorme par an.
Ouais, voilà. Mais... C'est qu'il a toujours eu cette connerie où tu disais putain, c'est con, le mec il fait une super saison et il fait cette boulette.
Il provoque des pénaux, des trucs. Ouais. Même.
Mais pas... sinon, il a quand même, il a été grand professionnel et apporté beaucoup. Hein, franchement, je pense qu'on regrette encore toujours un petit peu Djikou, même. Enfin, si on est chanceux là contre Djikou.
Oui, mais. Et parce que Djikou, du coup, était dans une relation à l'institution où il avait bien compris que l'institution était forte, que finalement, c'était dans son intérêt bien compris, et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, parce que je pense que c'est un mec intelligent, c'est un des rares footballeurs que j'estime intelligent, de jouer le jeu, d'être professionnel, et à partir du moment où son transfert s'est pas fait, le gars s'est réimpliqué, il y est pas pour rien dans le fait qu'on se maintient... relativement confortablement après une situation extrêmement compromise, mais ce gars-là en fait était là parce qu'il y avait encore une institution qui était respectable. Ouais. À partir du moment où l'institution n'est pas respectable, il faut pas demander aux gens de la respecter. C'est le même principe que les chiottes dans un bar. Si elles sont déjà dégueulasses à la base, les mecs vont pas tirer la chasse. C'est comme ça. Enfin,
très belle métaphore.
Tu parlais du projet vendu à Cels. On peut parler de l'article de Godin.
C'est sûrement le nœud du problème parce que il s'imaginait pas que avec la nouvelle dimension vendue au Racing, il s'imaginait pas que un à un les joueurs cadres des précédentes saisons ou qui étaient encore en ascension, il s'imaginait pas qu'ils allaient disparaître un à un et que les mercato.
Ils étaient 10, quoi. Enfin,
ouais, les 10 petits joueurs, il n'y en a plus aucun.
Ah, non, stop, surtout pas.
Ils étaient 10.
Les 10 petits joueurs de foot. Et, non, mais, à la limite.
Il a vu l'été où, on a mis quand même 60 millions et pendant 3 mois, on a galéré pour créer un collectif. Ouais. Il a vu l'hiver où on a un peu vendu les joueurs qui faisaient les utilités. On ne sait pas trop pourquoi. On avait besoin d'argent ou quoi, ou on avait besoin de faire de la place. Mais en tout cas, on a vendu. Cet hiver, on va en détailler, mais et personne n'est, il n'y a eu aucun renfort ou aucun signal.
Non, mais ce que dit Sel, c'est que il a dit à Monaco, il a discuté avec un dirigeant Blouko. Alors le dirigeant Blouko, c'était avec Bali, hein, qui ça avait été annoncé à l'époque.
Plus trouver un surnom parce que son nom est beaucoup trop compliqué.
Bagdad,
Bedad,
Saddam Hussein.
Non. Bedad et Bali, ça va, ça passe.
Iqbal,
et en fait, il a discuté. Matt Sels avait discuté avec le boss. Hein, c'est lui le boss au final. Et il disait voilà, le projet, c'est vraiment de ce qu'on décrit depuis un moment. Hein, là, c'est juste que c'est lui qui le dit. Que le départ des anciens va s'accélérer, l'arrivée des prospects également. Vous verrez l'été prochain. Donc ouais. Sels, de toute façon, dès qu'il pouvait, il se barrait. Donc. Que ça soit lui qui décide de son départ plutôt que qu'on le pousse à la.
Et apparemment. Tout au courant du mois de janvier, il a un peu cherché à droite à gauche, pas à se placer, mais à il avait l'œil ou l'oreille.
À l'écoute du marché.
L'oreille attentive, ouais.
Bah, il a pris un pimp, là. Genre, un macro qui, pour le placer.
Ah, mais on peut parler de son.
Il répondait aux annonces email de recruteurs sur LinkedIn.
Non, et donc qui apportait la, qui était l'apporteur d'affaires, l'homme de.
C'est un peu particulier parce que Sales, il était plus sous contrat avec son ancien agent.
Mais c'est quand même l'agent qui a niqué le
contrat. Ouais, alors ça c'est la finalité, mais en fait il était plus sous contrat. Et en période de mercato, t'as toujours des gens comme ça qui grenouillent, qui essaient de choper des mandats club, c'est-à-dire qui pour faire le lien entre un joueur et un club ou entre deux clubs. Et là, c'est Vadim Vassiliev, donc qui est un des agents les plus puissants maintenant du foot français. Hein,
qui était ancien président
de Monaco.
Président exécutif, ouais. Et avec un de ses associés, enfin un collaborateur, Shahir Belghazani, qu'on connaît bien.
Qu'on connaît bien à la Meno.
Tout à fait. Notamment dans le quartier de la Meno.
Dangereux, armé, redoutable. Ouais.
On écoutera après. Ça va bien. Donc apporteur d'affaires.
Joueur du mois de septembre.
Donc il est 2000. Notre ami Shahir qui a essayé de faire.
C'est un plus 5, non?
Ouais, je crois que c'est un plus 5. Qui a essayé, alors qui a en fait qui a appelé tous les clubs en Angleterre pour savoir s'il y en avait qui cherchaient un gardien.
Il y avait une meuf en laisse. Ouais.
Qui a essayé de chercher, qui voyait si un club cherchait un gardien. Donc au bout de l'hameçon, t'avais Nottingham Forest.
Nottingham qui avait seulement un gardien international américain, international grec.
Blacky Domos, ouais. Et donc Nottingham était intéressé. Donc Shahir lui a proposé tiens, il y a Cels là, il est un peu il cherche quelque chose. Et donc il a fait intermédiaire. Et au moment où Vadim Vassiliev voulait conclure deal, il s'est rendu compte que l'ancien agent de Cels était allé voir Nottingham Forest et avait conclu le deal sans passer par lui.
Ça c'était pas dans les DNC?
Non, c'est dans RMC.
Ouais, c'est sur le site des RMC. Là.
Et du coup, alors, qui a touché
la com? Les rideaux blancs du Sofitel. Ah, bah, a priori, c'est l'ancien agent de Cels.
C'est l'agent qui a fait le deal.
Et je pense qu'à mon avis, Belghazioni, il a récupéré de quoi s'acheter un autre Q5. Ouais. Mais c'est peut-être sans la meuf à l'intérieur.
Mais pas sur le transfert. Mais pas sur le transfert, justement, parce que Belghazioni, il peut pas signer le mandat. Parce qu'il est pas licencié.
C'est pas écrit. Oui, mais il peut recevoir un mandat, c'est pas, tu vois.
ça fonctionne.
Donc voilà, donc
Donc il n'y a pas que Cels qui est parti, même si ça nous déchire le cœur. Il y a
juste, pardon, je veux quand même dire.
Sur l'article. On a l'article en couleur hein, pour tous les gens qui regardent. On regarde en visio.
C'est plus sur
notre contre Nifan.
Le départ de Cels, alors c'est pareil, c'est un peu fleur bleue, mais je pense à tous les gamins qui, parce que Gilles avait vu une banderole à Clermont d'un gamin qui, enfin, il avait fait une banderole pour Matt Cels. Il a le maillot de Cels. Et je pense que Cels était presque un des derniers joueurs de l'effectif sur lequel les enfants.
Mais pas que les 7, enfants, 10 pas ans. Que les enfants.
Oui, mais moi je pense aux enfants.
Mais tout le monde en fait. Hein.
Mais en fait, tu pouvais t'identifier à lui. Il y a Perrin, mais enfin, il y a moins ce côté héros de gamin, comme pouvait l'être de mon temps Mostovoy, même à Alex Wenzel. Et maintenant, Cels, c'est le dernier à partir comme ça. Je pense au gamin de 8-10 ans. Aujourd'hui, il va s'identifier à peut-être, il s'identifie à Bakwa, mais dans un an, il est peut-être parti. T'as plus ce joueur qui reste pendant toutes tes années d'école, quand tu rentres au collège. Et voilà, je pense à ça.
Tu prends le maillot un peu plus grand pour le garder plusieurs années.
Ouais.
Oui,
c'est tout con, mais c'est en fait, c'est vraiment une page qui se tourne, quoi.
Et
c'est un symbole.
C'est une certaine conception du football comme étant en fait ça a commencé avec l'arrêt Bosman et c'est de pire en pire, ouais. Mais finalement
un autre belge,
le spectateur, le supporter devient de plus en plus un élément accessoire, il devient un agent d'ambiance. Mais on a bien compris que ce qui était important, c'était l'argent des transferts, des droits de télé, des marchés sur d'autres continents. Et finalement, t'as l'impression d'être juste une pièce du décor, et c'est ce qu'on te renvoie sur un truc comme Cels. C'est-à-dire que c'est toute la narration historique du football européen qui est basée sur des présidents un peu enracinés localement qui essayent de mettre une équipe parce que politiquement c'est important de bien se faire voir dans la région au sens large. Des joueurs qui simulent plus ou moins bien l'amour du maillot, parce que finalement très peu du vrai amour du maillot, mais en fait tout ça, ouais, ça rencontre une réalité qui est une réalité purement mathématique. C'est-à-dire qu'en fait Cels, finalement, il tente un coup de poker qui n'en est pas un. Il se dit bon, je vais y aller au forcing, parce que finalement le timing est hyper serré. Il apprend le
le 31 août au soir, qu'il y a peut-être une possibilité, et il vient le 1er septembre au matin, ça se décide en une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais en vrai, il sait qu'à partir du moment où c'est la somme,
on est en février.
Oui. La somme, ouais, la somme. Va...
Oui, il n'a pas intégré le mercato d'hiver.
Ouais. C'est le 1er février, le fin du mercato.
Ouais. La somme, non, à partir du moment où il sait que la somme.
Il m'a dit août, septembre.
Ah, pardon.
Non, mais c'est vrai que tu as raison, le mercato c'est d'hiver le lapsus, est une abomination.
C'est une aberration, une ignominie.
Mais à partir du moment où il sait que la somme est apte à faire céder, c'est presque un calcul boursier, tu vois. Enfin, je veux dire, je vais acheter. Telle option sur une action à tel prix parce que je sais que de toute façon ça marchera, et donc en fait il passe en force. Et tu vois, quand on pense pour rebondir sur ce que Hathor disait, t'avais le départ de Cassie. Le départ de Cassie, il y avait eu tout un cérémonial, et moi le départ de Cassie, j'avais trouvé que même si j'étais dégoûté que Cassie parte,
c'était propre.
Ouais, c'était propre, c'est ça. Le joueur face au cop avec ses coéquipiers qui le regardent. Il y avait un côté séparation en bon terme, quoi. C'est Gérard de la Conta, il a 10 ans à la boîte, il fait un pot de départ un peu sympa, on termine un peu beurré à se foutre des grands tapes dans le dos, il y a peut-être un qui chiale en douce dans les chiottes, mais au moins on s'est dit au revoir proprement, quoi. Là, t'as l'impression, le gars, il poste sur LinkedIn, ravi de commencer une nouvelle aventure dans la forêt
de Sherwood avec mon ami frère Tuck. c'est un gars, t'as bossé à côté de lui pendant 5 ans, d'un coup il est plus là... T'avais l'habitude
de voir sa golf sur le parking. Là, il y a un grand vide. Enfin, c'est compliqué, quoi.
C'est compliqué.
Mais alors, je reviens quand même parce que j'ai envie qu'on parle. Il y a d'autres départs. Il y a Jairzinho.
Ouais.
Yamsi qui est parti, aussi, du coup, un peu éclipsé. Lui aussi, il a mis un petit message. Est-ce qu'on n'est pas exactement dans la même configuration de Cels, mais on s'en fout un peu parce que bon.
On l'a poussé vers...
En plus, lui, on l'a poussé vraiment. Il était déjà poussé en dehors du terrain. Donc, en fait, lui, il n'y avait même pas question. Il n'avait même pas à réfléchir. C'était j'ai plus rien à faire ici, en fait. On ne veut plus de moi.
Ouais, et après, la destination est aussi un peu étrange hein, de partir locomotive Moscou.
Faire bouclier humain à Moscou.
Dans un wagon plombé.
Parce qu'il a passé un peu de temps aussi à l'ambassade de Russie. Encore vite des Vosges, c'est
bah oui, celui-là.
Avec les barrières, là, et puis la piste cyclope qui a coûté 60 000 euros voilà, pour faire.
Pour mettre des plots. Pour mettre
des plots de putain de plots jaunes.
Bref. Mais du coup, ouais, déjà ça, c'est un peu bizarre. Et après, oui, on a poussé Niamsi à la porte. Il y avait des contacts. Il y avait Anderlecht, il y avait 2-3 clubs comme ça qui étaient
encore des Belges,
c'est ouais. Bon.
Mais en fait, tu vois, Niamsi, c'était le prototype du joueur de club. C'est-à-dire, oui. En fait, le mec...
Il pouvait s'inscrire dans la durée.
Il est bon chez toi parce qu'il connaît le club, il s'est installé, il est titulaire. Un autre club va pas forcément le prendre parce qu'avec l'adaptation, c'est pas sûr que ça marche. Donc en fait, le gars va faire 6-7 ans chez toi. Tu t'en viens à l'aimer plus pour ses défauts que pour ses qualités.
C'est l'amour.
Bah c'est ça, exactement. Et puis là, finalement, tu te dis, bah, seul l'argent compte, et un mec comme Niamsi, il le comprend aussi très bien. Donc,
peut-être qu'il est doublonné un peu avec Perrin.
Non, mais les deux marchaient bien, en plus, quand même, charnière.
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on l'a poussé pour faire de la place à Silla, en fait.
Oui.
Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai posté... dans ma tribune, derrière mon gobelet en carton, pour ne pas assommer un enfant handicapé en bas.
Qui pleure déjà le départ de Matzel, ça.
Ouais, non, bah, y a sans doute de ça. Après, Niamsi, bon...
Après, c'est sûr qu'il s'est jamais... Il a jamais confirmé sa très bonne première saison. Mmh. Après, il a jamais non plus dépareillé.
En trompe-l'œil, quand même, un peu, à l'époque, parce que Djikou était super bon...
Tout le monde était super bon.
Était aussi dans une position où il était derrière, un peu un libéraux, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il était un peu le bloc central de cette défense à trois.
C'était, je pense, un peu en trompe-l'œil parce que sur le coup, on se disait ah ouais, mais il va pas rejoindre la sélection du Cameroun dont ses ancêtres sont originaires parce que attends, il y a peut-être un coup à jouer en équipe de France. Voilà, il y a eu pas mal d'emballements.
Au sujet
de Djikou, mais non, mais c'est assez incroyable parce qu'il jouait encore début décembre. Il se blesse à Reims, ou un truc où à la con il tombe mal sur son épaule ou je sais pas quoi. Ensuite, il est blessé.
T'as l'impression que le mec lui met un coup de pied pour être sûr qu'il va pas jouer le prochain.
Et ensuite,
il est titulaire.
Voilà,
il a sa blessure.
Tous les matchs,
et après sa blessure, on se dit, on a plus besoin de lui.
Ouais, s'il a fait des super matchs,
ça correspond à nos victoires. Donc, à l'émergence de la paire Perrin-Silla.
Ouais, sauf que ça appauvrit l'effectif, tu vois. Et j'ai envie de dire, pour ne pas paraphraser une grande penseuse, quand tu vois, finalement, on ne prend personne. Il y a Niamsi qui se barre, il y a Sels qui se barre, il y a tous ces blessés, tout ça, ça fait un paquet d'heures non remplacées, quoi.
Mais c'est vrai que
revers gagnant, c'est ça. C'est
en attendant que Doucouré revienne de blessure, l'alternative en défense centrale, c'est Steven Bazeya, qui est né en 2005, qui était venu initialement pour la réserve.
Ouais. Et qui était bon contre Avoine Chinon.
Mais c'est un bon jeune, hein. Mais
c'est lui qui a les cheveux comme ça.
2005. Ouais, il a.
Ouais, un poudré deux, ouais, comme ça.
Mais c'est... Bah, parfait pour le mois Bob Marley que le Racing veut faire, hein, genre.
Je dis, j'ai vu la bande-annonce du film, ça a l'air assez pourri. Quand
même. Bah, l'acteur est pas génial. Hein. J'y crois pas. J'achète pas trop l'acteur. Mais bon, je dirais peut-être quand même voir.
J'espère
pour fumer des joints dans le box, tu vois.
J'espère que c'est moins nul que Priscilla, parce que pour le coup, Priscilla, c'était vraiment un chier.
C'est quoi Priscilla?
Priscilla, c'est le film sur la femme à Presley de Sofia Coppola.
Ah ouais, non. Parce que moi, je connais Priscilla Folle du désert, voilà, qui est le classique des.
Oui, non, mais ça c'est plutôt bien.
Le classique de la des bus ultra, ouais. Et donc, voilà. Ça c'était nul, ça, de Sofia Coppola.
Ouais, c'était nul à chier, ouais.
C'est vrai que Sofia Coppola, elle
tombe un peu.
Ouais, voilà,
c'est enfin, je veux dire.
Quelqu'un qui tombe aussi, c'est Edouard Sobol.
Ah ouais, mais oui,
Edouard Sobol. J'en ai d'autres à départ.
Il tombe tel un drone sur Kiev.
Sur la flotte de la mer Noire.
Donc, oui, c'est vrai.
Edouard Sobol,
même ma mère m'a dit, tiens, le mec il te ressemble, et il est parti. Moi,
ça m'a fait un coup, je pensais que tu partais en Belgique. Ah non, c'était Sobol.
Ah oui, en plus, il était à peine venu à la Fédé en ce début d'année. Il n'a pas pu venir l'année dernière, je ne sais plus pourquoi. Il est arrivé en cours de saison. Donc,
Il était en train d'amener des pulls à Kiev.
Mais du coup, on a prêté Edouard Sobol avec un
prêt. Ah, il est prêté seulement ?
Prêt avec option d'achat. À Genk.
Ah, mais Sobol, c'est quand même le.
Ouais, bon, c'était le Racing d'avant.
Monumental.
Quoi. Moi, je l'aimais bien.
Bah, monumental,
on
non.
On a envie de l'aimer parce que voilà, on se dit, ah, c'était un gars exotique, son pays est envahi, etc. On a envie de le prendre dans ses bras et tout, mais sur le terrain, bon, c'était catastrophique. Mais ce qu'on garde, c'est les centres. Il a fait 2-3 centres là, directement en touche, à fond, enfin, je sais pas, une mine en direction de la touche. On savait pas si c'était un tir ou un centre, mais c'est. Notamment à Bollard, l'année dernière, le vendredi saint.
Oui, c'est vrai.
Enfin, c'était énorme. C'est une scène de centre de Sobol.
Voilà.
C'était peut-être un tir.
On retiendra de lui.
Ah, ouais, moi, c'est ce que je retiens.
C'est vrai que on a presque oublié qu'il est aussi parti.
Mais
il y a encore d'autres départs.
Bien sûr. Il y a Maxime Bastian.
Oui, qui a été libéré.
Non, il n'a pas été libéré, a priori. Il a été transféré.
Il a été coupé.
Non, il a été transféré.
Transféré en Iran avec ses scolaires.
Donc à Sochaux. À Sochaux. Mmh. Avec Zoho,
ils ont de l'argent.
Non, mais on l'a vendu contre un NFT Lionel Pratt, quoi. Enfin,
non, mais en fait, c'est pas
une vignette Panini.
C'est pas une rupture du contrat, je veux dire, c'est pas une rupture du contrat. Il y a peut-être pas eu d'indemnité, c'est peut-être un pourcentage à la revente, un truc comme ça. Mais c'est pas une rupture.
On a gratté un petit truc pour dire on n'a pas baissé la culotte, quoi.
Il y a un petit asset.
Pourcentage sur la nouvelle 309.
Et il y a un autre.
Encore?
Oui, mais alors c'est un départ. Alors vous direz que c'est, on s'en fout un peu, mais
du staff.
Je vais un peu ouvrir derrière sur un autre sujet. C'est Mahamadou Kanouté qui a été prêté à la Louvière en Détroit belge.
Ouais.
Et, oui, bon, il y a un joueur pro, hein, qui a été prêté avec option d'achat.
Mais est-ce que la Détroit belge c'est pro?
C'est semi pro.
Plus ou moins. Ouais. Chez nous, la Détroit est pas pro, mais chez les
c'est
Belges.
C'est même statut international, si tu veux.
C'est quand même le pays du surréalisme, quoi. Mais
et en fait, on a prêté, bon, pour le coup, il y a un contrat stagiaire, mais Zoumana Diallo, qui a signé à Virton, prêté à Virton en D3 belge.
Donc il y a un truc avec la Belgique, là.
Ouais, et il y a aussi Emre Khamed, qui a un contrat pro, qui a été prêté également à Virton en D3 belge.
Club et, frère, ça c'est dans
ouais, la et, alors, j'ai
dans
pas
la région du Luxembourg. Mmh.
Ouais,
Luxembourg belge.
J'ai pas encore suffisamment d'infos, mais de sérieux doutes quand même. Celui qui s'occupe des traits, non, c'est
Médica.
Ah oui, il aurait pas des connexions au Luxembourg?
Non. Non, mais la Détroit belge est quand même assez réputée, notamment Virton, sur des magouilles. Clairement.
Ah oui, j'allais dire, pas pour le foot, quoi.
Voilà. et c'est quand même pas mal, c'est quand même étrange d'avoir autant de prêts là-bas. Et il y a aussi une histoire, c'était Lorenzo Depuy qui était revenu de son prêt qui n'avait pas fonctionné à Épinal. Et
qui n'est pas en Détroit belge.
Qui n'est pas en Détroit belge.
Mais qui pourrait.
Mais par contre, le Medi Keller a essayé de le reprêter dans la foulée en D2 autrichienne contre l'avis du joueur. Et en fait, de Lorenzo Depuy a passé 10 jours à l'essai dans un club de Richem. Ça lui a pas du tout plu. Il est revenu à Strasbourg.
Mais c'est... l'Autriche est charmant cette période.
Ouais, alors je sais pas dans quel club c'était, mais c'était en D2 autrichienne. Mais donc voilà, j'ai pas encore sur d'infos, mais c'est quand même.
Donc ça pue du cul quand même, c'est ça un peu.
Parce qu'il était au ski club Kitzbühel et ça lui a pas plu.
Bon, moi non, on en reparlera une prochaine.
Carrément une émission spéciale médicalaire.
Ouais, ouais. Parce que. Ça parle un peu quand même.
Est-ce le président le futur président du Racing, le népotisme est-il à l'œuvre?
Genre Omar Bongo, Ali Bongo. Ouais.
Mais donc voilà, les départs c'est fait.
Les départs c'est fait. Mais il y a des arrivées. Attention. Alors, qu'est-ce que c'est le terme actuellement? C'est pépite. Les pépites.
Pépites.
Ouais. Votre garage, hein.
Alors.
Andrei Santos.
Ouais. Donc il est ukraino-brésilien.
Il est brésilien. Il est né en 2004. Alors il n'est pas encore tout à fait arrivé au Racing, mais c'est le Racing est son quatrième club en moins d'un an. Parce que en fait, il a
Vasco de Gama, Chelsea, prêté à Nottingham,
ouais,
et prêté à Strasbourg.
Et en moins d'un an.
Avec combien de matchs total?
3 matchs ou 6
peut-être.
Ouais, voilà. Ouais. Mais capitaine
du Brésil Olympique.
Ouais, Brésil Olympique.
Qui compte vaguement comme des rats. Enfin bref.
Futur.
Et c'est un joueur en fait qui a fait vraiment dans son parcours. Il est né en 2004. Hein, il a 20 ans. Enfin, même pas encore fêté son 20e anniversaire. Il a une saison pleine en D2 brésilienne et Chelsea a foutu, je crois, 12 ou 15 millions d'euros sur lui. Donc c'est encore, voilà, c'est.
Et du coup, ils ont rajouté 1 million d'euros pour qu'il joue en sélection olympique, c'est ça?
Je sais pas si ça se fait encore au Brésil, ça se faisait beaucoup
à l'époque. Ça se faisait beaucoup à l'époque, quoi.
Doria, par exemple, ancien Marseillais, une sélection au Brésil parce que son agent a payé.
Mais voilà. Ouais. Non, mais c'est un produit spéculatif, hein, tout simplement.
Tout à fait. Ouais.
C'est la même chose qu'Angelo, c'est-à-dire. Ouais. On en prend 5, on considère que sur les 5,
il y en a un qui va marcher.
Il y en a un qui va marcher et que ça va payer les 4 autres. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc là, pour le coup, le gars, il est déjà en dégringolade. Hein,
en plus, là c'est, oui, alors, ouais, c'est clair, le mec qui passe de genre. De la première, enfin, Nottingham Forest, c'est la première ligue, encore.
Oui, c'est la première.
Pour quelques temps. Nottingham Forest, il y a
Strasbourg. C'est un bon gardien, j'ai entendu.
Oui, mais c'est à plus des problèmes extrasportifs. Non,
oui. Juste un truc sur Nottingham Forest, il y a 4 ans, ils nous achètent Da Costa.
Oui.
Et là, ils nous prennent Sales, quoi. C'est quand même.
Bah oui, bah.
Là, il y a 4 ans,
on les mecs sont que devient Nuno Da Costa?
Bah, il joue
en Turquie.
Il a mis un triplé l'autre jour en Turquie.
Ah ouais?
Kayserispor, un truc comme ça.
Il était
sérieux,
Thomas Tonio? Il était pas à la canne.
Mais Nottingham Forest, qui un club, là, c'est le truc, si vous voulez briller en société.
Il a gagné plus de Coupes d'Europe que de championnats.
Que le championnat.
Et que le,
ça
que
c'est le petit truc, la minute Conan.
Ouais. Ryan Clough.
Et c'est d'autant plus amusant selon Conan que c'est des coupes d'Europe de clubs champions alors qu'ils n'ont qu'un seul championnat.
Oui, c'est exactement ce que Guillaume vient de dire. Non, c'est lui qui l'a dit. À l'époque où la coupe d'Europe voulait des clubs champions.
Ça voulait dire quelque chose.
Non, mais un champion par pays, mais le tenant du titre jouait.
Ouais. C'est ça.
Mais bon, ça pue du cul, évidemment. ça reste, on imagine, hein, Nottingham. Personne ici n'y allait, mais on voit tout à fait, quoi.
Je sais pas si c'est sympa. J'imagine.
Des gens sont.
Moi, je vois une forêt,
des filles trop grosses qui vomissent.
Des ours, plein d'animaux.
Des ours, le blaireau.
Frère Turk.
Des renards qui conduisent à gauche.
Mais en parlant de trucs qui puent du cul, il y a d'autres transferts. Il y a le transfert de Milos Lukovic.
Ah voilà. Oui.
Donc,
alors c'est le remplaçant de Motiba, c'est ça?
Ah ouais. C'est possible.
Non, je déconne, c'est une blague.
Mais qui est né
de Gamero.
Ou des deux.
Non, mais c'est là où on voit complètement le process de farm team. Que ce soit le transfert d'Andrei Santos, où finalement on nous l'envoie en voie de garage. Exactement comme une équipe NBA qui aurait pris un 15e tour de draft se rend compte que finalement le gars va pas le faire, alors on va l'envoyer aux Cougars de Grand Rapids. Bon, on sait jamais.
C'est Nancy, ça, les Cougars.
Ouais, enfin, je sais pas, les.
Densai.
Les Wildcats de Sioux Falls, ou enfin, je sais pas quelle merde, quoi. Donc nous, on est ça, hein. Et de la même manière que le Serbe, là, ok. On va lui faire un parcours un peu de progression graduelle, voilà, c'est ça. Il est pour l'instant il est encore en Serbie, donc il y a le moniteur d'auto-école à côté qui a les pédales. Bientôt il aura le droit de mettre la main sur le levier de vitesse et peut-être un jour il passera son code. Mais et donc en fait nous on est juste une étape là-dedans. On nous fait croire que c'est
un transfert super bien anticipé souverain, c'est que de la gueule, c'est que du, c'est que du produit spéculatif. Évidemment que le Racing aurait pu par le passé se positionner sur un Gus comme ça, mais on l'aurait pris tout de suite. On l'aurait évidemment pas pris pour ce même prix, pour ce montant-là qui est surévalué. Enfin, je sais pas. Là, c'est difficile de prétendre qu'on n'est pas une équipe de ferme. Quoi.
Attends, le prochain joueur est encore pire. Mais
là, on est toujours dans le positif ou quoi ?
Non, parce que
on est dans le fond.
Et sur Lukovic, point de vue du bilan, on rajoute des actifs, donc on est dans le positif. Sur Lukovic, bon, c'est presque une anecdote, hein, parce que de toute façon, le transfert est fait. Mais il vient d'un petit club de Belgrade, hein, l'IMT Belgrade, qui est fameux parce qu'il a son stade au sommet d'un centre commercial. Hein, je pense que vous avez déjà vu.
Ah, il y a Mathieu des Ultras qui était là-bas, voilà. Qui a fait un match, on va pas.
Donc c'est ce stade-là.
Mais j'ai vu les photos. Ouais.
Et en fait, le président de ce club, c'est un ancien Ultra de l'Utal Rouge, et qui est plus ou moins l'agent de la moitié de l'effectif.
Ouais.
Et bon, le frère de ce président ancien Ultra a été abattu par balle il y a quelques années.
Enfin, et ça sortit un bar à pute, ouais, bah, c'est
un peu de la Serbie quand même.
donc voilà, hein, vous voyez ma Balkan, comme on dit.
J'ai pas trop de questions sur les joueurs, c'est fou. Je cherche des questions, LinkedIn.
Donc en fait, il y a un autre joueur, mais qui a signé pour l'an prochain, parce qu'il a pas encore 18 ans.
Bah, de toute façon, un joueur qui signe pour tout de suite, ça a priori, c'est pas dans le projet. Hein,
parce qu'en fait, les écrans que moteurs,
c'est pas dans l'ADN.
Mais c'est intéressant quand même de le noter. C'est
parce qu'on a eu Patrick Huot trop.
Oui,
il a suivi le même schéma.
Mais là, c'est un joueur, c'est assez intéressant comme cas. C'est Pape Daouda Diong, donc il vient de l'académie de Daru Salam au Sénégal. Et en fait, à la fin de l'année, enfin fin décembre, il passe une semaine à Stamford Bridge, à Chelsea, au centre d'entraînement. Et il se fait photographier dans la tribune assistant au match contre Newcastle le 19 décembre. Donc, toute la presse dit, voilà, il va signer à Chelsea, c'est le futur star. Il était au Mondial U17, c'est un des meilleurs joueurs du Sénégal au Mondial U17. Et on apprend...
Avec Sadio Mané.
Non, U17.
Je sais pas, il a peut-être participé.
Il a pas encore refait le passeport. Mais
attention, dérapage.
et on apprend que finalement il signe
à Strasbourg.
À Strasbourg, et l'article de l'équipe dit c'est un dossier, en gros c'est un dossier maison, c'est un dossier monté par le Racing.
Ouais, mais en
fait, alors qu'il a passé une semaine à Chelsea, s'est fait prendre en photo et tout.
Mais c'est de toute façon, enfin c'est très clair, ce gars-là ne peut pas jouer en Angleterre actuellement.
Il n'a pas de permis de travail.
Donc, en fait, on sert de sas de transition. Ouais. Il faudra lui faire jouer X match en tant que titulaire et s'il est sélectionné en A,
ça va augmenter ses chances.
Ouais. Ça augmente ses chances d'avoir un permis de travail. On sert à ça.
Lukovic aussi.
Lukovic, c'est pareil. Donc, on est sur des contraintes. On est sur des gens qui appliquent des méthodes par rapport à ce qu'ils savent des contraintes légales et financières qui leur sont opposées. On est un compartiment. On nous met dans un endroit du compartiment et ce mercato démontre exactement ça. C'est-à-dire que s'il y a du fric à faire, il sera fait tout de suite. Et tout ce qui est rentré est là pour servir le grand frère. C'est absolument évident. Le Racing n'est pas un sujet agissant.
Qu'est-ce que tu réponds si tu dis ouais, mais on peut en bénéficier.
Oui, c'est très. C'est ma deuxième question.
On peut avoir ce genre de joueur alors qu'on les aurait jamais eu.
Est-ce qu'un jour on sera pas content d'avoir Angelo quand il sera
superstar du Brésil machin?
Ouais, mais il sera plus chez nous.
On l'aura eu.
Ouais, mais il sera passé chez nous.
On aura eu de la nostalgie de l'avoir vu.
C'est comme Jurkens.
Ah, mais là t'as des gars qui vont te raconter qu'il était déjà très fort chez nous machin.
On aurait
en fait ça dépend de où tu places le Racing. Enfin je veux dire si on réfléchit aux joueurs qui nous ont fait aimer ce club ces 10 ou 15 dernières années, c'était pas des ouais, alors effectivement, tu vois,
c'était pas des Alexandre Mendy, c'était plutôt du Blayac.
C'est ça, alors c'est sûr, dans les anciennes générations, t'as toi les mecs qui ont fait leur première carte de France sur Djorkaeff, et qui se disent, ah putain, quand même, il a joué chez nous. C'est sûr, après, bon, il est resté un an et il avait un autre âge, mais ça reste un peu, en vrai, les joueurs qui ont vraiment fait kiffer au Racing ces dernières années, c'est des mecs comme Lienard, c'est des mecs comme Gonçalves, c'est des mecs comme Blayac. Un peu chien de la casse qui viennent chez nous, pour qui le Racing, c'est peut-être pas l'apex de leur carrière, mais quand même quelque chose d'extrêmement important. Ouais. Tu vois, un mec comme Blayac, il a fait une dépression en partant du Racing. Ça veut dire quand même quelque chose. Et en fait, c'est ces gars-là qui ont fait que ce stade est devenu.
Mais qui ont arrêté le foot après le Racing, genre, je pense à Guillaume.
Baptiste Guillaume.
Baptiste Guillaume, qui a arrêté le football.
Et je peux penser à Martin Terrier.
bon, qui a eu son problème de sa grosse blessure, et qui est un très très bon joueur de Ligue 1, un des meilleurs attaquants de Ligue 1 au final. Il est passé au Racing. T'en as pas un souvenir non plus impérissable.
Non, le but à Bordeaux, c'est
ouais,
tout.
Oui, le but à Bordeaux, ouais.
Mais il y a aussi David Ledy qui est un autre niveau de joueur. Je retiens plus facilement David Ledy qu'un
Martin. Bien sûr, parce que David Ledy, il a incarné quelque chose.
Ouais.
Et en fait, se dire que on est la voix de garage et que peut-être un jour on a vu un truc passer. Enfin, je sais pas. C'est comme le gars qui est dans son lotissement et qui dit qu'un jour il a vu une Lamborghini avec une pute dedans. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. À la limite, achète-toi une Golf GTI ou un truc qui crache un peu pour rigoler un coup, quitte à te surendetter, à devoir la revendre à perte sur le bon coin. Mais en fait, c'est ce côté genre spectateur d'un destin qui n'est pas le tien. C'est pas comme ça que moi je conçois le Racing, tu vois. C'est des joueurs. En fait, c'est ça qui était vraiment très appréciable parce qu'on est sorti d'une époque. Ginesté, Yelali, tout ça, où tu veux, où on était le paillasson de tout le monde, les agents se foutaient de nous, les coachs se foutaient de nous, les joueurs se foutaient de nous,
on se foutait de nous, là, de
manière totale. Et là, d'un coup, finalement, on avait remonté, on avait touché le fond de la piscine, et t'avais des mecs, alors je dis pas qu'ils étaient parfaits, qu'ils étaient passés, peut-être qu'ils avaient une dose de cynisme par ailleurs, et certainement qu'un mec comme Lienard, il en a joué à fond parce qu'il a bien compris que c'était son intérêt, mais quand même, pour eux, le Racing, c'était quelque chose. Qu'est-ce que tu veux que pour ton pape, je sais pas quoi, là,
Diong,
ouais, voilà, qu'est-ce que pour lui ça veut dire, le Racing, à partir Diong du moment premier, où on lui a parlé de Chelsea, à partir du moment où on lui a parlé de Chelsea, ça fait écran sur tout.
Mais même André Santos, je suis même pas sûr qu'il sait qu'il joue à Strasbourg aujourd'hui.
Voilà, donc pour lui, on est l'équipe réserve, là.
Ah, c'est carnaval, hein,
on verra. On est les bisons de Fort Lauderdale ou je sais pas quoi. Enfin, c'est nul à chier. C'est pas comme ça que je positionne le Racing. Et après tous ceux qui se disent ah ouais genre on a vu un gars et peut-être un jour il a fait quelque chose. Enfin, je sais pas. C'est comme les gars qui te disent qu'ils ont vu Hendrix en première partie de Johnny Orenus. Ok, mais tu savais pas qui c'était à l'époque. Donc en fait tu peux toujours faire le beau 30 ans après. Quoi. Ça n'a aucun sens.
Mais il y a un joueur qui contredit tout cet argument parce que c'est bien la preuve que Bunko ne recrute pas
à la fois local et expérimenté.
On ne recrute pas que des jeunes pour faire des plus-values, vous êtes des menteurs. On a recruté Mathieu Drière. Ah, alors qu'est-ce que vous dites de ça?
C'était la nouvelle qui nous a fait battre haleine, je ne sais pas comment dire, qui nous a tenu en haleine.
23 heures du premier.
Voilà. Heureusement qu'il y a eu ce truc, on s'est dit putain, on n'a pas veillé pour rien pour voir le mercato. Mathieu Dreyer, arrête.
Ouais. Il rentre à la base.
Il rentre enfin. Après, c'est deux frères qui ont fait.
Après, sa trahison, centre de formation.
Ouais, 20 ans après avoir préféré Sochaux.
tout à fait.
Mathieu Dreyer.
Imagine le mec, premier match, il se fait huer éternel avec des lionceaux décapités.
Ça serait bien de demander à François Keller son avis sur Mathieu Dreyer.
Éternel doublure de
Et sur les parents, Mathieu Dreyer, sûrement ça.
Non, parce que les deux frères étaient au centre de force.
Ah, mais il les a rattrapés après.
Ils se sont barrés quand même.
Ouais, mais pour eux, ils jouent une barre.
Bah, Cyril s'était barré, on a assisté à la scène avec Strontim à l'époque.
Le départ de Cyril, ouais.
Ouais, bref. On en reparlera après.
Non, mais Mathieu Dreyer, quoi. C'est... Même à Saint-Étienne en D2, c'était un sketch.
C'est le troisième.
Donc,
il était derrière Étienne Green.
Heureusement qu'il jouera jamais, mais je sais pas.
Pas sûr. Hein.
Ça fait vraiment
mais ça permet aux trolls d'exister, quoi.
C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Bélarouche, en plus. Putain. Dans les jeunes. Ouais, ça, c'est boulette, hein. Putain, la boulette.
Oui, mais ça aurait fait qu'on aurait parlé de Matt Sells, donc ça l'aurait fait exprès.
Là, c'est une thématique d'Iams, hein. Il y avait, la boulette contre
PSG. D'ailleurs, là, on va quand même se donner 15 minutes pour conclure. Là, on me dit.
100 minutes pour convaincre.
100 minutes pour convaincre la France.
Bon, Emmanuel, ouais, les gardiens.
Écoutez, les carnets de Léance.
Enfin, sauf si vous voulez parler
d'un débat.
Audrière, non, on s'en bat les couilles, hein.
Le réarmement.
Alors, je s'en fous. Qu'est-ce que réarmement démographique? Il faut faire des joueurs de moins de 18 ans. Bon, alors, Bélarouche. Un petit peu parler de la coupe et un petit peu parler de Lens. Ouais. On a un quart d'heure. Bélarouche.
Bélarouche qui est un très bon joueur. Alors, je vais désolé pour Donny Dio, hein, parce que je pense que j'ai dû quand même le voir un peu plus souvent que lui. C'est un très bon gardien qui est techniquement qui a tout, enfin qui a les bases.
Pas le jeu au pied après.
Si, ouais.
Non,
si, au contraire.
Non, le jeu
au pied. C'est sa force, mais il s'est planté sur le premier match.
Il s'est planté sur la
confiance. C'est quand même énorme.
Excès de confiance.
Justement, des éducateurs du centre de formation disaient que les jeux à l'entraînement, il peut jouer dans le champ sans problème et il dénote pas.
Ah, il faut pas dribbler Mbappé, quoi. C'est même pas Mbappé.
Après, c'est un jeune qui s'est.
C'est la blague. Moi, je trouve que c'est même plus beau, c'est dramatique. Genre, on aurait écrit le scénario, j'arrête
un peu. Mais c'est la film américain.
américain, tu vois.
Alors qu'avec la réserve, il n'a jamais arrêté de pénalty. Donc c'est...
C'était le 16 de la réserve.
Enfin, il n'en a eu que 3. Donc,
voilà. Série Netflix avec Clovis Cornillac dans le rôle de Bélarouche.
Et Marina Foïs.
Qui joue Loré sur le banc.
Non, mais, donc, mais du coup, ouais, bah, Bélarouche, c'est un très bon gardien techniquement. Il a un défaut, c'est quand même que il est très impulsif. C'est le genre de mec qui peut faire une sortie à la Oukidja dans les
Schumacher.
Je dirais plutôt à la Oukidja. Il est capable de faire 85 très bonnes minutes sur un match et de complètement péter un plomb.
Voilà. Là, tu cites un artiste parce que Oukidja, c'est quand même.
Ouais, mais c'est
dans la série des gens qui font rêver, Oukidja, c'est.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu Oukidja dernièrement, mais ça va pas très fort.
Ah ouais?
Il est ZEF, enfin, il est sans département fixe. Donc, c'est-à-dire qu'il est en modèle.
Ouais.
Non, il a pas l'air bien. Genre, il a une barbe comme ça. Il est très tiré. Il sent le graillon.
Mais ça, c'est les vrais artistes, tu vois. Il y a des périodes down.
Ouais, c'est un peu le stress du football. Johnny Cash,
il a eu des moments difficiles.
Bah oui. Ouais.
Puis après, il va à Folsom, tu vois. Genre, t'imagines.
À l'Elzo, quoi.
Future live at la MAE, ce serait tellement bon.
Donc voilà. Bélarouche qui sera le numéro 1 jusqu'à la fin de saison.
Donc est-ce qu'il a. Alors la question que tous les ch'toubistes, radio ch'toubistes se posent, est-ce qu'il a les carrures pour être numéro 1? Est-ce qu'il va faire le taf?
Ah, je pense qu'il va faire le taf, mais il n'a pas encore le niveau pour être numéro 1 et bon, qu'en faire des boulettes.
Ouais, c'est intéressant.
Est-ce que ça peut nous emmener à regarder le bas du classement?
Non.
Ou est-ce que aussi ça peut être notre gardien d'avenir où là il a juste une fenêtre de tir pour faire éventuellement faire son trou?
Ouais, en fait il est sur une c'est compliqué quand même, je veux dire,
c'est la Risser derrière.
T'es bombardé. Il y avait une rumeur Risser aussi, genre que le Racing essayait de faire revenir Risser. C'était vrai ça?
Ouais, ils ont essayé.
OK. Ah,
il y a un contrat donc
Dijon a résisté.
Dijon a dit non, mais nous on vend pas de notre gardien numéro 1 la veille du mercato hein. On est un vrai club nous.
Les gars, on a une soirée moutarde, rappelez demain quoi.
Le Lille de Gérard Lopez avait fait ça à l'époque avec Motiba qui était prêté à Valenciennes.
Ouais, ils avaient racheté
pour casser le prêt, ils ont donné 1 million d'euros à Valenciennes. Gérard Lopez.
Et est-ce que dans quel jardin il était enterré ce 1 million d'euros? Alors, Bélarouche.
Ouais. Il va faire le boulot, mais bon, après.
En fait, c'est rafraîchissant. Ça donne un côté. Ça donne plus de vie au match. Le premier match, il y a ce côté. Matt Sells part, t'es triste et tout. Tu te dis, il y a quand même le gamin, il est là.
De toute façon, t'as
le mec, il est balancé dans
l'arène. Il y a pénalty à la 3ème minute.
Ouais, pénalty à la 3ème minute. Quand il l'arrête, tu te dis, c'est quand même beau. Ça c'est un film américain.
C'est Disney.
Ouais, ouais, c'est.
Très belle réaction du cop tout avant et après le match aussi.
Même Mbappé l'a un petit peu réconforté.
Et Donnarumma en a parlé aussi à la fin. Ouais, donc c'est...
Et Charbonnier.
Il y a Charbonnier qui avait vu 10 matchs, hein, il était avec moi à Molsheim.
Voilà. Donc Bélarouche, encore des.
On n'a pas le choix. Hein.
Un peu speed.
C'est ça, ouais, Alexandre Pierre.
C'était un excellent résumé. Bélarouche, on n'a pas le choix.
Pour le coup, Alexandre Pierre, il est nul. Donc,
voilà. La coupe. Donc, a priori, la coupe, on fait jouer Bélarouche aussi, du coup, on la joue à fond.
C'est ça.
Ouais, bon, la coupe, c'est quand même relativement rafraîchissant, on va pas se mentir. La perspective d'aller jouer un quart de finale à Lyon et une demi-finale va mettre un peu de piment dans cette saison. On a bien compris que le but, c'était de stabiliser le classement, de pas s'amuser à aller chercher une quelconque qualification dans une Coupe d'Europe de clochard qui coûterait plus cher à jouer que ce qu'elle rapporterait, mais on a considéré qu'on était suffisamment confort pour être maintenu. Au moins, la coupe met un peu d'animation là-dedans. Je trouve que, finalement, c'est presque la première année où on voit l'intérêt de la suppression de la Coupe de la Ligue, je trouve. C'est que dans la
hiérarchie, il y a championnat et Coupe de France.
L'événement reprend un peu de cachet. Après, ce qui est dommage, c'est rester les matchs en semaine, quoi. Enchaîner 3 matchs en semaine pour la Coupe de France, c'est pas du tout l'esprit de la Coupe de France.
Surtout sur des matchs... Rien que là, le 8e, c'était déjà un match, on a senti, la ménage n'était pas pleine, mais il y a quand même une excitation qui est différente.
C'était une bonne ambiance.
Ouais, ouais, mais parce que c'est tout se joue là, en fait. Ouais. Genre, qui est pas,
sais pas encore le tirage du suivant, donc tu te dis, tiens, on a peut-être
un quart de finale.
Comme à l'époque, Chambly et tout ça, quand t'as les Herbiers, tu te dis, attends, elle est pour nous, la finale.
Elle était pour nous, cette finale.
Pour nous. Putain.
Mais non, mais par contre, genre, je pense à des gens comme le Puy ou Puy en Velay ou Rouen. Les mecs vont, genre, c'est le match de la décennie du siècle pour eux. Et ils vont jouer ça en semaine. Ça, c'est nul.
Chier, ouais, c'est nul. Chier, ouais, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est l'histoire des matchs en semaine, particulièrement dans une Ligue 1 à 18 ou à 30.
On nous oblige déjà à jouer des matchs en semaine. En plus, on ne sait même pas pourquoi, puisque c'est même pas pour mettre.
Il y en a quasiment plus.
Si, il y en a.
Il y en a deux, je crois.
Il y en avait un avant Noël.
Ouais, il y en aura encore un, je ne sais plus quand.
Donc ça, c'est dommage, quoi. Franchement, match en semaine, parce que même un match comme celui du Havre, s'il avait été un samedi soir, il y aurait eu toute la montée en pression sur la journée, ça aurait été quand même mieux.
Ça aurait peut-être été 19, dimanche à 15h, ou je sais pas, entre un multiplex.
Donc c'est dommage, mais bon, allez, en fait, c'est là où on arrive à une forme de dissociation mentale, c'est que si on va jouer une finale de coupe, ça va presque...
faire une saison historique.
Ouais, ça et puis tous les gars qui vont dire yo, mais c'est pas si mal, pourquoi ils râlent donc les autres, la banderole de la honte, ça va leur donner des munitions. Donc là, on est vraiment partagé entre notre côté, on soutient l'équipe parce que dans l'absolu, les mecs, pour la plupart d'entre eux, ils y peuvent rien. Et le profond ressentiment et la grande détestation du projet. Quoi.
On a conclu McCormack avec une Coupe de France.
On avait commencé avec une.
Avec une. entre deux coupes.
Voilà, bah la coupe, bon, on espère quand même tous taper encore une fois Lyon.
Et ça a été fixé.
Oui,
été
c'est
fixé,
le mardi 27 février à 20h45. Taper Lyon, chez eux en coupe, c'était pour la Coupe de Ligue, c'était
en quart de finale.
En quart de finale, aussi. Ça serait beau.
Et il y aura plus de demi-finale contre Bordeaux parce que le club a disparu.
Et ça, c'est beau aussi.
Exactement. Gaëtan Huard, si tu nous écoutes.
Ouais, voilà, mangeant. Lens. Alors, on va finir sur Lens, puisque bon, on est voilà, dans le timing.
Le Frérico,
hommage à Calcio 90, son match préféré. Il est déjà à Lens, vous en doutez bien, c'est pour ça qu'il n'est pas là.
Avec les frérots à manger des frites sans sas.
Il est dans le truc, le bac à Saint-Doux, déjà. C'est vautré dedans dès la première arrivée.
On va dire, alors, du coup, je reprends les mots de Matzels, Saint Matzels, l'évangile mais selon Matzels, qui disait « Quand j'ai re-signé au Racing, je partais sur un projet à la lensoise, c'est-à-dire une montée en puissance, on veut jouer quelque chose, on veut faire quelque chose, on garde des joueurs pour continuer l'aventure. Deux projets se rencontrent, même si Lens c'est plus le même projet peut-être exactement, mais qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que le Racing peut faire bonne figure? Est-ce qu'on va rechuter ou
Lens ça monte quand même bien. Ils avaient mal commencé le championnat, encore
jusqu'à qu'ils nous jouent.
Ouais. Non mais en fait ça commence au premier match, ils mènent 2-0 à la mi-temps en Brest et finalement ils perdent 3-2. Et derrière, ils enchaînent pas mal de défaites, de matchs nuls, donc ils sont relégables pendant un moment.
Ouais.
Il y a la Coupe d'Europe où ils sont quand même bien. Finalement, ils finissent troisième de leur poule en Ligue des Champions.
Non, ils battent Arsenal ou quoi?
Ils battent Arsenal quand même à domicile, mais donc ils font une bonne Coupe d'Europe. Et là, depuis quelques semaines, ils reviennent quand même assez bien. Ils ont un milieu de terrain qui commence à bien tourner avec les jeunes Diouf et El Ainaoui, qui est suivi par le Racing.
Le fils du tennisman.
Je suis pour le Racing depuis un moment, depuis le Pôle Espoir. Et là, c'est vrai. Boucou n'était pas encore là. Il désirait bosser.
On aurait pu l'acheter avec Boucou.
Ouais, sans Boucou, on l'aurait sans doute acheté. Et donc, en fait, ça tourne plutôt bien. Et je pense que Lens, pendant, ils sont dans une dynamique pour finir autour de la 4e, 5e place.
En plus, Wai ne marche pas du tout.
C'est ça, il n'a pas encore donné à pleine mesure de son talent.
Auteur d'un but au match aller.
Bon, on va perdre, quoi.
Oui, on va perdre.
Ouais. En plus, avec les joueurs qui ont un peu tapé dans le fond là, contre le Havre, plus les blessés, on va arriver avec...
Plus pas d'attaquants.
Avec à peine 11 titulaires, logiquement, on perd, quoi. Ce qui fera quand même 2 défaites de suite en championnat, ce qui va calmer tout le monde. On restera, on restera relativement loin de la zone de relégation, mais on arrêtera définitivement de regarder devant. Ouais. Donc nous, je pense que ça sent la défaite, but de Thomasson.
Non, il n'est pas dans le groupe.
Ah merde. Retour de Thomasson alors.
mais c'est vrai que bon, on va pas trop ouvrir non plus parce que le temps passe. Mais le fait d'avoir autant de blessés en attaque, on se rend compte quand même des limites quantitatives de notre groupe. Parce que finalement, en attaquant, il y a Emega dans le groupe.
Il y a Mohamed Béchik hein, qui en première année stagère, donc normalement il n'a même pas.
Il n'a même pas le droit de sortir de chez lui. Quoi.
Il a l'autorisation de
sortie du territoire pour aller à Lens.
S'il passe par la Béchik, il ne peut pas aller à Lens en fait.
Mais, et du coup, il n'y a que Bakua et Mega comme, comme attaquants.
J'allais dire, il n'y en a aucun des deux qui est attaquant.
Oui, oui. Non, mais voilà, donc on a vraiment un effectif très limité. Et dans l'effectif, on a encore dans le groupe contre Lens. On a du Bazega, du El Mourabet, du Harar Fernandez qui est de 2006, qui est même pas encore formé physiquement.
Il est... Non, mais... T'es allé vers ouais, calme-toi calme-toi Louis Doyon, là, ou non, je sais pas comment il s'appelle, Jacques Doyon.
Non, mais il est de 2006, il est encore tout fin, ça, non?
On arrête cette émission.
Il est d'un point, hey, on joue à Lens.
Il était beau, il était bien local, là.
Voilà. Non mais je veux dire, il y a énormément de jeunes de la réserve.
Jeune et faible.
C'était l'été, évidemment.
Énormément de jeunes de la réserve. Et on a un effectif qui est très limité, voilà. Un groupe qui est très limité.
Ok, bah voilà. Alors, un petit prono, vite fait, parce qu'on aime bien les pronos comme ça.
0-2.
0-2.
Oui. Enfin, non, 2-0 pour eux.
Oui, oui, bon.
Ouais, j'avais 0-2 aussi.
3-1 pour Lens.
Qui marque, chez lui.
Ouais,
pas quoi. Moi je vais dire 0-0. Allez, on a quasiment fait aucun 0-0. Ce serait bien qu'on se fasse bien chier pendant un match là.
Ah ouais, tout à fait. Ouais, ça se défend.
Voilà. Et je vais finir, parce qu'il faut conclure, il faut savoir conclure. C'est ce que disait Marc Keller pendant le mercato. Ben, quand même, par citer Mathéo qui nous a fait plein, une belle prose, on ne peut pas tout dire.
Ouais, il nous a régalé avec un article.
On laisse en suspens pour le prochain Radio Shtoub.
C'est vrai qu'il y a plein de questions un peu.
La ferme aux pépites est-elle un avatar de la ferme aux animaux? Vous avez 3 semaines. Allez, Racine.
Allez, Racine.
S'il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.